Yes, aujourd'hui sur le podcast, vous allez voir, c'est un nouveau format, quelque chose de très différent. Donc, je vais vous demander quelque chose, je vais absolument avoir besoin de votre review là-dessus. Pourquoi je veux vos commentaires? Parce que, un, c'est une durée d'une heure et demie, quelque chose que je ne suis pas habitué de faire, des longs métrages, appelons ça comme ça, comparé à mes standards où j'ai des épisodes qui sont plus courts, même en conversation, règle générale. Là, c'est un autre format aussi où ça va être avec des chums, ça, des personnes où, avec qui je suis un peu plus proche. Puis j'ai la chance dans ma vie d'être entouré d'entrepreneurs et d'entrepreneurs. Marc, aujourd'hui, c'est quelqu'un avec qui j'ai grandi, donc quelqu'un avec qui j'ai énormément de contexte. Quand je dis j'ai grandi, là, c'est qu'on était littéralement ensemble à tous les jours de notre jeunesse, pratiquement. Donc, c'est un peu comme le frère que j'ai jamais eu. T'sais. Fait que vous allez voir, il y a une dynamique qui est complètement différente. En plus de ça, on se fait des coupes sangria, là. On se fait des verres de vin allongé, comme ça qu'on devrait l'appeler. Donc, c'est deux chums qui discutent autour d'un verre de vin sur Zoom, bien sûr. Hein? Bienvenue à notre époque en 2020. Donc, un nouveau format différent, les vendredis, appelons ça comme ça. Et vraiment important pour moi que vous m'écrivez sur Instagram, s'il vous plaît, ma demande spéciale. Je veux savoir qu'est-ce que vous en pensez. Puis bien sûr, ceux qui prennent 42 secondes de leur temps pour aller sur iTunes, sur Balados, laisser un 5-star review, un commentaire écrit. C'est incroyable comment j'aime ça. Je les lis. C'est impossible pour moi d'y répondre sur l'application. J'adorais ça, mais j'en lis chaque ligne. Puis vraiment, il y en a qui m'écrivent des longs commentaires. C'est vraiment cool. Je vous aime. Ceux qui écoutent sur Spotify, ben je sais que vous ne pouvez pas laisser de commentaires, mais vous pouvez vous abonner. Donc, c'est un peu la même chose. Et sans plus attendre, let's go. Who chose a spark of flame? Watch as a fire rages. Our hearts are never tame. Cause we were born for this. We were born for this. Aujourd'hui avec mon boy, sérieux, Marc, c'est quelqu'un avec qui j'ai grandi. Je pense que ça va plus loin qu'un ami d'enfance. Là. On a littéralement grandi ensemble. Mmh. Ensemble à tous les jours de notre vie, toute notre jeunesse. Un peu le frère que j'ai jamais eu. Comment ça va, mon pote?
Ça va super bien, man. Je suis super content d'être là. Congé aujourd'hui. Un mois un petit peu difficile dans le monde de la resto avec tout ce qui se passe, mais on garde le cap, puis on est là, puis on va être prêt quand tout recommence.
Ouais, écoute, c'est pas évident pour personne. La COVID, même au point de vue personnel, on s'en parlait au téléphone l'autre fois. Sérieux, moi, je trouve ça un peu plus dur, là, surtout les week-ends, ça me rentre dedans, man. T'sais, professionnellement, tout va super bien, je me plains pas, je touche du bois, c'est magnifique. Personnellement, c'est sûr que c'est un peu plus différent, où tous mes hobbies ont crissé le camp en bon français, là, tout ce qui est sport, gym, aller au playground, sortir avec des amis, aller au resto avec ma blonde, faire des voyages, comme tout est out, tu sais.
Tout est out, puis tu sais, c'est la deuxième fois, le monde l'a accepté la première fois, tu sais, ce printemps, quand c'est arrivé, tout ça, c'était nouveau, c'était tout. Là, on s'en a un peu sorti cet été, puis ça revient, donc c'est un peu un bump in the road, comme on dit, mais c'est justement, tu sais, puis la vie sociale est tellement importante, faire ses trucs en dehors et tout ça, puis tu sais, moi, je suis super content de voir, tu sais, je pense que vous autres, là-dedans, vous avez très bien sorti, puis vos trucs sont en expansion, puis vont super bien, puis je pense que c'est une belle victoire, puis c'est un beau test de caractère pour Believe en même temps, tu sais, aussi tôt dans l'histoire.
C'est bien dit, man. C'est un beau test de caractère. T'as raison. Puis je me souviens, le premier, je l'ai vraiment vu comme un défi personnel. C'est différent, tu sais. La première vague de COVID, man, j'étais en mode survie. Littéralement survie. Genre, j'étais pas capable de dormir le matin. Je me levais tôt. Peu importe la journée, ça changeait rien, man. Comme, c'est la première fois de ma vie que mon instinct, je le sentais qui. Ça kickait, là, tu sais, puis j'avais quelque chose à me prouver, puis j'étais comme en mode, tu sais, do or die, là, let's go, peu importe, tu sais, fait que, non, c'était spécial, les deux vagues sont vraiment différentes, on dirait que la deuxième, elle me rentre dedans personnellement, tu sais, c'est différent, mais bon, anyway, on fait pas un épisode sur le COVID, on va aller plus loin que ça aujourd'hui, parce que, bon, pour moi, toi, t'es l'ultime entrepreneur, là, de tout ce que j'ai vu dans ma vie, puis je pense qu'il y a beaucoup de monde qui peuvent apprendre des leçons que t'as vécues, puis on a tellement de contextes ensemble, je veux dire, on a grandi ensemble, on a habité ensemble à Québec, après, pendant, je ne sais quoi, là, 4-5 ans, peut-être, là, fait que, tu sais, on a des histoires ensemble à pu finir, c'est vraiment intéressant, puis, tu sais, pour vous mettre en contexte, auditeur, auditrice, Marc, qui travaille en restauration et maître d'hôtel dans une grande, grande chaîne. Par contre, on va omettre le nom aujourd'hui. Donc, on va parler de son histoire à travers deux restaurants. Un qu'on va appeler chaise et l'autre qu'on va appeler table. Mais pour vous faire une mise en contexte professionnelle, Marc, excusez-moi, pas Max. Marc est maître d'hôtel chez Table, un très, 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 très gros restaurant dans la province du Québec, disons ça comme ça. Très, très, très bien réputé. Bref, on n'aimera pas le nom, mais contexte professionnel, Marc est maître d'hôtel là-bas avec d'autres aspirations, bien sûr. On va parler de ton parcours, puis qu'est-ce qui est intéressant en restauration, c'est que j'ai beaucoup de contexte aussi, là, j'en ai fait pendant 10 ans, fait qu'on a beaucoup de... Je pense qu'on va avoir beaucoup de métaphores dans tout ça, puis on va se comprendre, c'est ce qui est le fun. Mais,
on a même...
Vas-y.
Je dis, on a
comment?
On a resté pendant 5 ans?
Ouais, ouais. 5 clairement, nos premières expériences de Boss Boy au Café de l'Atlantique ensemble. Ah, je m'en souviens comme si c'était hier, man, c'est une beauté. Mais aujourd'hui, le concept de l'épisode, ça va vraiment être avec Marc de parler de la peur de déléguer, parce que Marc, il a géré des grosses, grosses équipes de travail, en gère encore aujourd'hui des grosses équipes, l'art de mettre quelqu'un à la porte aussi, comment on se rend là de façon efficace pour les deux parties, la peur de déléguer. Donc aujourd'hui, ça va vraiment être un épisode sur le micromanagement, sur la peur de déléguer, etc. Donc un sujet qui me passionne vraiment, parce que la peur de déléguer, pour moi, ça a été une pensée limitative qui a été là pendant très, très longtemps. Je commence juste à m'en débarrasser. Là, on est rendu à 18, en, tu sais, on est une équipe de 18 personnes qui s'en va encore en grossissant. On va atteindre le 25 d'ici mi-2021. J'en serais pas surpris si tout continue d'aller comme ça. Donc, j'ai dû, moi, en tant qu'entrepreneur, grandir, apprendre à déléguer. C'est vraiment important si on veut croître. Donc, Marc, avant ça, man, parlons de tes débuts en restauration, parce que je veux qu'on parle de ta période de croissance là-dedans, parce que au restaurant Chaise, t'es parti de Boss Boy à maître d'hôtel. T'es parti du resto, faute de chicane avec le propriétaire à l'époque. T'es revenu en tant que copropriétaire. Ouais. Une estie d'histoire, man. Mmh. Fait qu'on va y aller étape par étape. Admettons qu'on on skip le cégep puis l'uni, là, toi puis moi, parce que ça n'a pas marché pour les deux, là. Mais en fait, toi, t'étais bon au cégep. C'était à l'uni que ça a dérapé, hein?
Ben, tu sais, j'étais bon à l'université, c'était un petit peu, puis je pense qu'on était un petit peu pareil de ce côté-là. Je voyais pas ma vie se passer de ce côté-là. J'avais de la misère avec le fait qu'un prof en avant de la classe me dise comment vivre. Je voulais vivre ma vie selon ce que j'avais envie, qu'est-ce que j'y croyais, qu'est-ce que j'y voyais. Puis, tu sais, la restauration, moi, toujours, puis c'était un petit peu... contre-productif, tu sais, mais on était à 15-16 ans, t'es serveur au Café de l'Atlantique, tu fais des sous qui sont pas possibles et tout ça, donc ça t'amène dans un boss, puis moi, ça a été un coup de foudre avec la restauration. Tu finis par aller à l'école, tu veux faire plaisir à tes parents et tout ça, jusqu'au jour où t'as la maturité de dire, je vais vivre pour moi, je vais vivre mes rêves, puis tu sais, mes rêves pour moi, c'était la resto, donc c'est le truc que je suis le plus fier dans ma vie, c'est de vivre sur ce qui me fait triper, d'être là, puis de surtout pas avoir, je pense, laisser tomber sur la pression sociale de dire, de prendre le chemin qui est tout tracé, c'est d'aller vraiment vers ce qui, moi, me faisait triper, puis qu'est-ce que je ferais sans salaire, au final. Qu'est-ce que je ferais de ma vie si on me paierait pas pour le faire, puis c'est ça que la restauration m'a toujours amené.
Honnêtement, c'est complètement incroyable parce que j'avais oublié cette période-là, man. C'est le fun que t'en parles parce que c'est tes parents qui finançaient l'université comme la plupart d'entre vous, auditeurs, auditrices. Mm-hmm. Je sais que... Puis l'affaire, c'est que ça te met de la pression dans le sens que Colin, il paye pour, tu sais, ça serait le fun que j'y aille, ça serait le fun que j'accomplisse quelque chose avec eux parce que sinon, ben, ultimement, t'as l'impression de leur devoir quelque chose.
Et laisser tomber aussi, tu sais, à quelque part. Mm.
Comment t'as... Moi, je sais, là, je connais toutes tes histoires, mais quand même, j'aimerais ça qu'on en parle. Comment tu as vécu ça, puis comment tu as approché ça? Tu es parti ta carrière en restauration, puis tu leur disais pas, c'était quoi? Tiens, admettons, toi, ton expérience personnelle, qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu ferais différemment? Puis qu'est-ce que tu conseilles à quelqu'un qui vit la même chose en ce moment? Parce qu'il y en a des tonnes d'étudiants, man, qui sont pris là-dedans. Là.
C'est vraiment, puis tu sais, un beau souvenir que j'ai, tu sais, je pense en secondaire 4 ou secondaire 5, je parlais avec mon père, tu sais, je disais, moi, ce que je veux faire dans ma vie, c'est de la restauration. Il m'avait un peu dit, tu ferais ce que tu veux, mon gars, mais pour là, tu t'en vas à l'école. Et tu sais, ça a été tellement drôle, puis ça a été des études en sciences nature, qui est un peu complexe, qui a du stock en génie civil par la suite, qui était vraiment, tu sais, un domaine, il faut t'étudier, il faut t'être présent. Et tout ça, et c'est, ça me motivait pas, ça me drivait pas au quotidien, puis je me suis jamais levé le matin en me disant, hey, moi, ce que je veux faire, c'est d'aller à l'école, c'est d'apprendre comment construire un pont. Moi, je voulais faire de la sommellerie, du cocktail, être avec les gens, avoir ce contact humain-là en restauration qui est magique. Tu vois des humains, puis on est des pourvoyeurs de bonheur, au final, tu sais. c'est un petit peu ça qui, moi, m'allumait. Puis, ça a été un peu le saut de l'ange, là, tu sais, à 22, 23 ans, 2 ans en génie civil derrière la cravate, des notes qui sont très, très bien, qui permettent de faire. Et, tu sais, ça a été de dire, ben, si je choisis dans ma vie salaire, pas condition, moi, mon rêve, c'est d'avoir des restaurants, c'est de gérer des équipes, c'est d'être là. Fait que ça a été un peu. Moi, je l'appelle le saut de l'ange, mais tu sais, ça a été sauter pas de parachute. Donc, je lance le génie civil. Je travaillais dans un restaurant qu'on nomme Chaise, je crois. Là, puis, ça a été, OK, je m'investis à 100 %, je m'investis à fond, je verrai qu'est-ce que ça donne. Puis, on a trop tendance à dire que la vie doit être fixée à 20, à 25 ans, à 30 ans et tout ça. Puis, moi, ça a été un peu l'inverse. Bien, j'essaye, j'y vais, j'ai du temps devant moi et je vais regretter de ne pas l'avoir fait. Puis c'est à notre âge, je pense qu'il faut prendre des risques pour se sortir de notre zone de confort puis d'essayer des trucs. Puis on aura toujours du temps pour, je pense, pour se rattraper puis changer de cap si jamais la décision n'est pas la bonne. Mais je voulais vivre le voyage. Puis je pense que c'est le truc que je suis le plus content de ma vie, c'est d'avoir sauté aux pieds joints. Puis aujourd'hui, ben, je gagne ma vie, je fais mes trucs, je suis là-dedans puis je ne pourrais pas être plus heureux finalement.
J'ai un souvenir de la... Écoute bien ça, OK? Je viens de flasher là-dessus, puis on n'a jamais parlé, puis je trouve que c'est intéressant qu'on en parle là. Avec ma coupe sangria, d'ailleurs, je me descends, parce que là, Marc, je peux pas m'empêcher, là, on se fait un FaceTime, on se fait un Zoom, c'est un beau moment, c'est cool, on a des discussions comme on a au téléphone, parce que j'avais dit à Marc, on a tellement des bonnes discussions au téléphone, ce serait cool, t'embarques sur le podcast, puis on en jase, tu sais, des fois, on passe des affaires pas possibles. Puis, on s'est décidé de se faire un vino. Ben, toi, c'est Kronenbourg?
Ouais, Kronenbourg, c'est 64 blanches.
Tu te trompes pas, mais moi, je me suis fait un petit Cloudline Pinot Noir. Ma blonde voulait prendre un verre de rouge. J'avais pas trop rouge, mais j'irais pas trop compliqué, là, tu sais. Fait que, non, je l'aime bien, un petit Pinot Noir, coupe sangria jusqu'au top en haut, tu sais, pour pas faire trop d'aller-retour.
Si ma mémoire est bonne, en plus, c'est de l'Oregon.
Bonne question. Écoute, je vais aller chercher la bouteille tantôt pour remplir mon verre, puis je te dirai. Mais il est super bon. C'est vraiment un bon pinot noir. OK, j'ai un souvenir, man. Moi, j'avais peut-être... C'était avant ma dernière été au café, fait que je ne sais pas j'avais quel âge. Probablement 20 ans, peut-être 21, mais non, plus 19-20, je ne sais pas exactement, puis peut-être un an de plus. Fait que puis je me souviens que mon père est venu me chercher à Québec. Puis... Okay. T'allais porter ta première ronde de CV à Québec, mais je sais pas pourquoi t'es pas revenu au café, man, honnêtement. Puis on est allé te porter sur le boulevard Laurier. Je pense que c'était à la Place de la Cité. T'allais porter ton premier CV en tant que boss boy. Ouais. Puis là, t'aurais pu avoir une job de serveur au café parce qu'on avait une job de serveur les deux en passant, là, au café. T'as décidé de repartir boss boy à Québec.
Ouais.
Quand on avait une job au café qui était payante comme serveur dans le tourisme, tu sais autant que moi, c'est super payant. T'es resté à Québec, puis je me souviens, avec mon père, avant de partir à Percé, on est allé te dropper, je pense que c'était à un resto qui s'appelle La Petite Bretonne, à quelque part, Place de la Cité, dans ce coin-là. Ouais. Finalement, c'est pas là que t'as abouti, là, t'as abouti chez Chaise, mais c'était quoi le thinking, man? Tu t'en souviens-tu? Pourquoi t'es pas revenu en Gaspésie?
Ah, tu sais, je m'en souviens parfaitement. Ça a été... Le premier point, c'était quand j'ai commencé à être à Québec, j'étais à l'école, j'avais besoin d'un boulot à temps partiel. Tu vas avoir tes sous, tu vas avoir tes trucs. Et tu sais, tu le disais, Percé, c'est un petit village. J'avais commencé à passer des entrevues. On avait fait 3 ans de service à peu près, environ. Et tu sais, tous les gens que je parlais à l'époque, ils me disaient, ben faire du service à Percé, c'est pas la même chose que faire du service à Québec. Et pour moi... Ça a été un petit peu un défi, un challenge. OK, ben, je vais y aller et je vais le faire. Et je trouvais que la vision à Québec me permettait de grandir, d'aller plus loin. Tu sais, un petit peu comme le truc, toi, tu es parti de Québec pour Montréal. Puis je pense que c'est ça qui t'a dans ta business et dans ton truc. Mais le fait de rester à Québec, pour moi, m'offrait une plus grande chance de m'améliorer, de grandir et d'aller vers l'avant. Et tu sais, la job à Percé, je l'avais fait pendant 4-5 ans, donc l'année de plus va me donner quoi? Au final, oui, certes, c'est des sous, mais c'est des sous. J'ai 19 ans, j'ai pas de maison à payer, j'ai pas de char, j'ai pas de blablabla. Donc, tu sais, la différence de sous vaut pas la peine, mais en quoi être à Québec, être dans un marché qui est plus intense, qui est plus vite, qui est touristique et qui bouge, m'a permis de grandir. Ça a été une année même pour moi qui a été un peu pivot. Tu sais, la première année que que tu arrêtes de rester chez tes parents un petit peu, que tu es toi-même dans ton appartement, dans une ville en dehors. C'est ces années-là qui t'amènent des connaissances, une expérience qui vaut très, très cher.
Je pense que la leçon à retenir de ça, parce que en équité salariale, là,
ouais.
Cet été-là, à l'âge de... Toi, tu avais un an de plus que moi, fait que je devais avoir 19 plutôt 20, admettons. Là. T'as laissé au moins 15 000 piastres à la table. T'sais.
Oui, des milliers.
Facile,
des...
là. Ah, ouais, oh, facile. Ouais. T'sais, l'équité, la différence entre un été de 4 mois à Percé versus un été de 4 mois dans le Vieux-Québec à être boss boy, je sais pas c'est quoi la différence d'équité là-dedans, mais admettons qu'on dit 15 000 là, à 20 ans, c'est de l'argent quand même là, à cet âge-là. Là. T'sais, c'est... Mais la leçon dans tout ça, je pense que tu l'illustres vraiment bien dans le sens que, je veux dire, si tu veux passer au prochain niveau, il va sûrement falloir que tu prennes un step back,
mm-hmm.
fasses des sacrifices. Ça, ça en est un gros quand même pour toi. Puis c'est drôle que tu parles du gap entre Percé puis Québec en restauration parce que j'ai vécu la même chose quand j'ai commencé à être serveur au Zibo. Puis mm-hmm. j'avais le même thinking que toi dans le sens que je me disais, je vais-tu être capable d'être serveur à Québec même si j'étais un bon serveur à Percé, admettons. Puis tu commences, puis t'es comme... Same shit, dans le fond, parce que moi, ma technique de site de service, c'était juste la personnalité. Là. J'avais aucune connaissance de vin, j'avais pas de connaissance de cuisine. C'était juste du. J'étais un bon serveur parce que j'étais un bon communicateur, that's it. T'sais, je me sortais de toutes les situations parce que j'étais capable de jaser avec le client. Fait que pour moi, ça n'a rien changé. Mais un gars qui est plus technique, je peux comprendre qu'il y a vraiment un edge entre les deux. Mais anyway, je trouve ça intéressant parce qu'on n'a jamais parlé de ça. Puis c'est vraiment cool. Tu n'as pas eu peur de prendre un step back, faire un sacrifice. On parle de 15 000 piastres à l'âge de 20 ans. Prendre un step back puis comprendre, OK, si je veux bâtir une carrière en restauration, il va falloir que je lâche Percé puis j'embarque tout de suite dans les grosses ligues. Québec-Montréal, au Québec, c'est là que ça se passe. Vraiment intéressant. Bonne leçon, guys. Écoutez ça. Puis Marc, il y en a des histoires. On en a à pu finir, là, mais parlons de ça. Tu as commencé... On va parler de ton histoire chez Chaise, là, parce que même des histoires chez Chaise, là, ça n'a pas de bon sens. Là. Puis moi, on habitait ensemble là, dans cette époque-là, fait que je t'ai vu aller bord en bord, là, tu sais, comment, je veux dire, mentalement, comment tu étais affecté, puis comment tu mettais du temps là-dedans, puis de l'énergie là-dedans. Puis... J'aimerais ça qu'on parle de ton parcours. Tu as commencé boss boy, tu es passé suiteur, tu es passé serveur. Qu'est-ce qui s'est passé, man? De boss boy à serveur, puis ensuite on fera de serveur à maître d'hôtel, puis de maître d'hôtel à cuisinier, même dans un resto random à Québec.
C'est tout, tu sais, quand je suis arrivé là, puis c'était un amour pour la personne qui m'embauchait. J'avais passé, je m'en souviens, c'est une vingtaine d'entrevues environ, là, tu sais, à Québec, un peu partout, un petit peu plus gêné comme personne, pas capable de s'ouvrir et tout ça. Puis, tu sais, tu le disais, le service, c'est une question de prestance de quelqu'un qui est là, qui a de la vibe, qui a de la drive. Puis, c'est jusqu'au moment où cette personne-là m'embauche et me dit, j'avais 20, 21 ans à l'époque. C'est une organisation, on parle de 3000 repas par jour environ l'été. C'est gros dans un quartier qui est très touristique. Je me fais embaucher comme boss boy. Puis la personne qui était propriétaire du restaurant à l'époque me dit, je vais faire de toi le roi du monde. Puis tu sais, ça a été en un ou deux mois que je travaillais là et tout ça. Puis c'est une phrase qui, pour moi, je vais me souvenir toute ma vie. Là. Tu sais, ça a été un moment. Donc, ça a été de prendre un pas de recul, de me dire comment moi, je peux travailler sur mon craft ici où j'en suis rendu pour pouvoir aller plus loin. Donc, à 20 ans, ça a été de se lancer du 70, 75 heures par semaine, être là, être présent, tout prendre. Et j'avais la chance où c'était un restaurant qui, n'ayant pas nécessairement des gros moyens et tout ça, donc j'ai eu des opportunités très, très, très jeunes de pouvoir me faire valoir. Et tu sais, à 20, 21 ans, j'avais une vingtaine d'employés à charge et tout ça. Puis je suis même pas prêt à dire que je le faisais très bien puis que j'étais prêt à l'époque pour ça. Mais ce restaurant-là m'a donné une opportunité justement, tu sais, de sauter dans la piscine, de gérer des trucs, d'avoir un jeune âge, plein de gens avec moi pour travailler et pour y aller. Puis c'était une leçon de vie puis un moment de vie qui a été tellement, tellement le fun, tellement challengeant puis des grosses défaites, des grosses victoires, des gros moments, des moments à pleurer là, tu sais, à 22-23 ans parce que tu t'en sors pas dans ton restaurant. Puis l'inverse aussi vrai, l'euphorie de réussir à faire quelque chose qui est incroyable puis de l'emmener. C'était une expérience de vie où ça n'a même pas été nécessairement comment je peux devenir le meilleur employé de restaurant. Ça a été devenir comment je peux devenir la meilleure personne le meilleur leader là-dedans, le meilleur individu, apprendre des trucs et dans des situations. Et tu es dans un moment, surtout en restauration, où tout pète un peu dans la face au moment où tu t'y attends pas. Donc, tu dois, excusez-moi, tu dois te revirer de bord, tu dois être créatif, tu dois être rapide sur la gâchette un petit peu pour pouvoir te sortir de ces zones-là. Et mon premier buzz où justement, c'était un été, on était, il y avait les feux de l'Auto-Québec, nous, qui pétaient sur le fleuve, c'était sur la Penning de l'été. J'avais une quarantaine d'employés à charge sur le plancher, 23, 24 ans. On fait une journée incroyable et ça a été...
Et quoi, t'es MD à ce point-ci ou ouais. T'es serveur, là?
Maître d'hôtel à ce point-là, ouais. Tu sais, ça a été 6 mois de boss boy, ça a été 6 mois de service, tombé gérant de plancher après un an et demi, devenu maître d'hôtel après 2 ans et demi, 3 ans, tu sais, au gros maximum.
Puis je t'arrête 2 secondes, t'as pris... En fait, je t'arrête à 2 places avant que tu nous racontes ton histoire des feux d'Auto-Québec. La première place où je t'arrête, parce que je ne veux pas te laisser aller trop longtemps, puis après ça, on perd notre idée, mais je t'arrête, puis on y revient. Première des choses, tu parles de l'embauche qui s'est passée chez Chaise. Le proprio qui te dit « Je veux faire de toi le roi du monde ». Ça part de où? Parce que pour qui te dit ça, il va falloir qu'il y ait une conversation avant, parce que sinon, je ne pense pas qu'il chante la pomme à tous ses employés. Là. Du moins, j'ose espérer que non. Mais vous avez-tu une conversation à savoir c'était quoi tes aspirations plus tard, si tu étais là pour l'été? C'était quoi la conversation avant qu'il dise ça?
Avant tout ça, c'est arrivé dans un moment. Tu sais, je me sens accueilli, je me sens à ma place, je me sens avoir l'opportunité de pouvoir performer. Puis devient la bonne vieille question, tu sais, où tu te vois plus tard, où tu te vois dans 5 ans, où tu te vois dans 10 ans et tout ça. Et tu sais, moi, la réponse à l'époque, ça a été « je veux 67 restaurants ». Pourquoi 67? Peu importe, t'sais, j'en veux juste un tas, j'en veux beaucoup, puis j'ai des vise la lune, tu tombes pas dans les étoiles au pire, mais t'sais, ça a été juste un moment où j'étais, je veux performer dans ce domaine-là, et comment t'sais, tu peux m'aider à me rendre jusque-là. Et t'sais, c'est à ce moment-là que cette personne-là est devenue un petit peu un mentor, m'a guidé, et nos désirs de vie étaient alignés ensemble, puis c'est pour ça que ça a fait un team qui fonctionnait.
Auditeur, auditrice, là, je me tue à le dire à quel point c'est important d'écouter vos employés, puis avoir des sit-down avec eux, puis surtout en entrevue, puis savoir qu'est-ce qu'ils veulent plus tard. Il y en a qui vont vouloir bâtir une carrière chez vous, il y en a qui ont des idées qui vont plus loin que votre business, puis c'est bien correct. L'important, c'est de savoir qu'est-ce que cet employé-là veut pour son futur, parler son langage pour être capable de le motiver, parce que la seule façon qu'un employé soit performant chez vous, c'est qu'il puisse s'épanouir. Puis c'est quelque chose que le propriétaire de Chaise a très bien fait, du moins à ce moment-là, de te dire, écoute, tu veux être le roi du monde, tu vas pouvoir l'être ici, du moins je vais te donner un tremplin pour l'être. Puis de là est partie cette carrière-là chez Chaise qui a duré un certain moment quand même dans ta vie. Tu vois, j'ai tellement laissé aller ton idée loin que j'ai perdu la deuxième idée dont je vais te parler, mais je suis sûr qu'elle va me revenir. Parle-nous de ton truc Feu de l'Auto-Québec, tu as eu une illumination, là, je suppose, à ce moment-là.
Oui, puis tu sais, juste avant de tomber là-dessus, pour revenir, tu sais, moi, ce moment-là qui m'a pris à l'entrevue au début de mon parcours, ça a été 10 ans que j'ai travaillé là-bas. Et tu sais, aussi, en restauration, on l'a vécu, on a travaillé ensemble, c'est un taux de roulement qui est beaucoup plus rapide, on parle de 2, 3, 4 ans. Donc, justement, de parler avec tes gens, puis d'avoir des désirs qui sont communs, ça te permet de faire des trucs exceptionnels. Mais bref, on parlait des... On parlait des feux l'Auto-Québec et tout ça. Donc, on gère une équipe, on est 40-50 employés à ce moment-là. Donc, moi, je suis un peu le numéro 2 de la salle à manger, si on veut. Il y a le proprio qui est le numéro 1, il y a le chef de cuisine, on s'en va pour l'été. C'est un quartier qui est ultra touristique. J'ai 23 ans à l'époque et le chef de cuisine, à ce moment-là, décide qu'il quitte, qu'il part. Donc, le proprio se ramasse dans un endroit où il doit, lui, devenir le chef de cuisine et tout ça, en plein milieu de l'été, je pense au début du mois de juillet. Et il me dit, Marc, je dois partir en cuisine. Je ne suis plus capable de gérer la salle à manger, l'embauche, tout ce qui est autour et tout ça. Est-ce que tu peux, à ce moment-là, embarquer et le faire? Ben, tu sais, oui. Ma première réponse, c'est oui. J'ai toujours été quelqu'un qui disait oui et qui réfléchissait après. Mais oui, je fonce, j'y vais, en sachant pas trop dans quoi je m'embarque, si je suis capable de m'en sortir, puis si j'ai les compétences pour le faire à ce moment-là. Donc, on gère 40, 50 employés, on fait une été de feu, une été record, ça se passe super bien. On arrive à la plus grosse journée de l'année, les feux Loto-Québec, le samedi au début du mois d'août. Et moi, mon plus gros rêve à ce moment-là, c'est de me dire, je vais battre nos chiffres de vente de l'année passée. Notre plus gros record, qu'est-ce qu'on a fait dans cette situation-là? Je vais le battre et je vais le gagner. Resto qui a 250 places de terrasse, c'est super dépendant de la température et tout. J'arrive au samedi du mois d'août, il fait 2 degrés. Ils ventent les arbres, ils shakent.
Attends, toi, tu veux battre un record cette journée-là?
Moi, je veux battre un record et, tu sais, j'ai mis un petit peu toutes mes émotions, toute ma vie là-dedans. Puis j'arrive, il fait 2 degrés, il vente à pas finir. Personne ne veut s'assurer dehors. Puis réussis un petit peu à faire quelque chose, bon, assire le monde là-dedans, changer, mettre des toiles dehors pour assire. Et finalement, on est tombé à 5 % du record. Mais ça a été un moment pour moi où j'ai été tellement, tellement content. Puis c'est ce moment-là qui m'a dit, c'est ce que je veux faire de ma vie parce que tu gères des équipes, tu gères des individus, ça va vite. Puis tu sais, ça a été super, super de belle expérience à un jeune âge que j'utilise encore aujourd'hui pour me motiver parce que je me dis, Dieu sait qu'est-ce que je fais, peu importe qu'est-ce que je fais, il va peut-être faire 2 degrés. Donc, prends toutes tes précautions, construis qu'est-ce que tu peux faire pour enlever les impondérables, je pense, de l'équation.
Ouais, c'est vraiment bien dit. Puis, tu sais, j'avais fait une métaphore sur le podcast l'autre fois aussi, puis je raconte tout le temps les mêmes choses. Anyway, mais comme. L'autre fois, je suis intéressé avec VP et Kane, puis les deux étaient comme, j'écoute pas tes podcasts parce que dans le fond, tu racontes toutes les mêmes histoires que tu racontes dans la vraie vie. Mais, tu sais, l'autre fois, je disais sur le podcast, si tu essaies de faire grandir une plante, la seule chose que tu peux faire, c'est l'arroser à tous les jours. T'sais, tu contrôles pas le vent, l'humidité, les insectes, tous ces facteurs externes-là. Donc, le seul focus que tu peux avoir, c'est. Écoute, je contrôle ce que je peux contrôler du mieux que je peux. Puis je pense que tu es un exemple flagrant de ça. Puis ça m'a fait penser justement à ton histoire à être gérant de plancher en restauration. C'est intéressant parce que tu as pris un deuxième step back pour grandir encore plus. Fait que c'est comme la chenille qui devient le papillon. C'est vraiment intéressant parce que qu'est-ce qu'il faut comprendre, auditeurs, auditrices, c'est qu'en restauration, le gérant de plancher, là, il fait vraiment moins d'argent que le serveur, même s'il y a une position en haut. C'est vraiment. Je pense que c'est la seule fois dans ma vie que j'ai vu ça où le c'est dur de trouver des gérants de restauration parce que tu essaies d'avoir un serveur puis les serveurs ne veulent pas bouger parce qu'ils font le triple du gérant en salaire. Ouais. Fait que pour avoir un gérant, ça te prend quelqu'un qui a des ambitions pour être directeur ou maître d'hôtel. Il est où ton thinking? Ben, tu sais, je veux dire, avec le contexte que j'ai eu avant, je comprends que ton thinking, c'est j'ai pas peur de faire des sacrifices puis prendre un step back. Tu sais, faire un pas derrière pour en faire 10 devant éventuellement. Mais c'était quoi ton thinking à ce moment-là? C'était ça, dans le fond? C'était juste, it is what it is, j'ai pas le choix si je veux passer au prochain niveau?
Si je veux passer au prochain niveau, j'ai pas le choix. Puis c'est aussi, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Parce que, tu sais, je pense qu'il y en a 12 milliards de façons de faire de l'argent au final. Tu sais, puis c'est pas le truc que les gens considère le plus important dans un boulot, dans une job et tout ça. Et tu sais, oui, tu as besoin d'argent pour vivre, pour faire tes trucs, mais tu sais, le thinking était, si je me lève le matin, si je me regarde dans le miroir, qu'est-ce que moi je fais qui me permet de me sentir épanoui, développé, qui me permet de passer à un autre niveau et qu'est-ce que je suis fier de faire aussi? Parce que même aujourd'hui, je pourrais prendre le chemin facile, aller faire du service, faire, comme tu le dis, 2-3 fois le salaire, mais c'est pas ça qui, moi, me permet de me sentir bien avec moi-même, de me sentir épanoui puis de me sentir développé, tout simplement.
Tu sais, puis vous faire une mise en contexte salariale, là, tu sais, un gérant de restauration standard va faire quoi? Marquer entre 40 et 50, admettons?
C'est dans la moyenne, peut-être un petit peu plus si tu vas dans des établissements un peu plus huppés, un peu plus travaillés, mais c'est clairement dans la moyenne de 40 à 50, là, oh, oui, clairement.
Tu sais, 40-50, puis un bon serveur full-time qui travaille dans une place où il y a vraiment du roulement, va faire 65 à 100 000, tout dépendant des heures qu'il fait. Fait que, tu sais, il y a vraiment, vraiment une grosse différence. Juste pour vous donner du contexte, pour ceux qui sont un peu moins familiers avec la restauration, parce qu'aujourd'hui, avec Marc, ça va vraiment être des concepts de restauration. Et quelque chose que je n'ai pas encore parlé sur le podcast, un épisode qui s'en vient où je veux vraiment parler du fait que pour être un bon entrepreneur ou un bon intrapreneur, un des deux, il faut que tu sois trois choses. Un, que tu sois un bon pompier, que tu sois capable d'éteindre des feux facilement, gauche à droite, donc que tu aies une grande capacité en gestion de crise ou de problème. Deux, que tu sois un excellent communicateur si tu veux réussir. Et numéro trois, il faut que tu sois un innovateur dans ton domaine de spécialité, peu importe quel est ce domaine ou quel est ton rôle dans le business, il faut que tu sois capable d'innover. Donc, si tu n'as aucune de ces trois capacités-là, c'est impossible que tu réussisses en entrepreneuriat et ou en intrapreneuriat. Toi, clairement, tu es excellent dans les trois, c'est pour ça que tu réussis. Tu peux-tu, là, je te lance une curveball parce qu'on n'a pas parlé avant, mais tu as 1 million d'histoires pas possibles. Tu peux-tu nous parler d'une histoire de gestion de crise que tu as vécue chez Chaise, parce que je sais que tu en as eu, là. Sors-moi une bonne, un vrai bordel, là. Puis comment tu t'en es sorti, tu sais, juste pour le fun. Sérieux, c'est juste pour le fun. Mais je veux en même temps que tu sais, prouver au monde que dans le fond, si tu veux réussir, il faut que tu sois capable de faire de la gestion de crise, il faut que tu sois un bon communicateur. Puis souvent, éteindre des feux vient avec être un bon communicateur, parce que souvent, c'est ton équipe qui va l'éteindre pour toi. Ou avec toi, plutôt, devrais-je dire. Fait que Marc, let's go. On se lance là-dedans. L'histoire de gestion de crise, ouais.
Tu m'as lancé la balle curve. Donc, gestion de crise... Il y a une dizaine d'années environ, un premier gros mariage, gros happening, donc l'apéro sur la terrasse, les bouchées, le repas en dedans, dance floor, machin. J'ai un nouveau gérant avec moi. Il a envie d'être impliqué, il a faim, il a envie d'être là. Je lui demande, peux-tu me préparer un cocktail mousseux? Tout simplement, donc c'est 130 personnes, les mariés. Je réunis tout le monde sur la terrasse à ce moment-là. Santé des mariés, donc tu te mets au centre, lever les verres et tout le monde prend une gorgée, tout le monde crache dans le plancher au gros, gros, gros complet. Le plus gros malade. Au gros complet. La personne qui l'avait fait à ce moment-là avait mis du sel au lieu du sucre, tout simplement, n'avait pas pris le temps de goûter. Puis, tu sais, on parle d'un contrat dans 40-50 000 $ de vente environ. C'est un mariage. C'est le jour le plus important de leur vie. Et tu sais, ça a été pour moi mon plus gros souvenir de moment malaisant. Et la première fois que tu te fais un peu sortir de ta zone de confort, la personne qui l'avait fait à ce moment-là est complètement brisée. La mariée veut plus rien savoir. C'est un petit peu le bordel. Puis ça a été...
Là, moi... je t'arrête 2 secondes. On est en début de soirée. Le mariage est déjà passé. C'est une réception après le mariage, je comprends bien.
Exactement.
Exactement. On prend l'apéro, tout le monde le crache parce qu'il y a du sel au lieu du sucre dans le mousseux ou peu importe le cocktail que vous avez décidé de faire. OK, good. Fait que la panique pogne,
on parle de 130 personnes, les gens n'ont pas mangé encore pour la mariée. C'est le jour de sa vie, là, t'sais, c'est ce qu'elle va se souvenir tout le temps. Tu as juste l'impression à ce moment-là de l'échapper au complet. Là, t'sais, comment je peux revenir de cette situation-là? Donc, t'sais, le gros thinking pour moi, puis je pense que ça a été une grosse leçon, ça a été de juste m'arrêter puis quitter le restaurant pendant 5 minutes. Comment je peux réfléchir, comment je peux me sortir de cette situation-là qui, dans ma tête, est ultra stressante et ultra pesante et je vois pas le bout. Ça a été de sortir, de réunir mon équipe. À ce moment-là, on parle pour ce nombre d'invités-là, on parle d'une quinzaine de personnes. Et ça a été de prendre le taureau par les cornes puis de dire, écoutez, guys, bon, c'est arrivé. On est dans cette situation-là qui, présentement, est très difficile. On va peut-être pas pouvoir s'en sortir, on va peut-être pas pouvoir gagner, mais qu'est-ce qu'on contrôle à partir de maintenant? Quel est notre chemin? Quelles sont nos portes de sortie? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et tu sais, ça a été quelque chose. Cette mariée-là m'appelle à tous les ans, à la date de son mariage, pour me remercier d'avoir fait ce happening-là et cet événement-là, malgré qu'il avait commencé un petit peu en queue de poisson. C'est un souvenir que j'ai pour moi à tous les moments où la vie devient un petit peu plus difficile, où j'ai pas l'impression de s'en sortir. Puis c'est quelque chose que je conseille à tout le monde. T'sais, il parle beaucoup du happy place, ayez votre happy place. Ben, moi, quand la vie devient difficile dans mon boulot, c'est ça. Ça veut dire qu'on peut surmonter n'importe quelle situation, n'importe quel obstacle. Il suffit juste de s'arrêter, de prendre du recul, puis de comprendre que ce qui est arrivé, c'est qu'est-ce qu'on peut faire maintenant qui est important.
Je trouve ça intéressant, man. Puis, tu sais, je me suis mis dans tes souliers pendant que tu me racontais l'histoire, puis j'étais comme, qu'est-ce que moi j'aurais fait à ta place pendant que tu étais dehors, puis j'étais comme, honnêtement, je sais pas concrètement qu'est-ce que tu as fait, puis tu sauras nous le dire, mais admettons, moi j'aurais été à ta place, voici qu'est-ce que j'aurais fait. Un, j'aurais été voir la mariée, j'aurais dit tout de suite, désolé, voici ce qui s'est passé, c'est simple, on a mis du sel au lieu du sucre. Si vous voulez, je peux le dire à tout le monde en même temps, pour que tout le monde soit au courant. On va vous faire une ronde de cocktail, évidemment. Deux, dire à l'équipe que, écoutez, ça se peut que pendant les 25 prochaines minutes, tout le monde soit bête avec vous parce qu'ils viennent de boire du sel. C'est pas grave. Avalez votre pilule, faites des sourires à tout le monde, puis on va faire une ronde de cocktail numéro 2.
Ouais.
Puis tu vas comprendre à l'équipe qu'à partir de maintenant, on garde le sourire, on contrôle ce qu'on peut contrôler, comme tu as dit. Puis la seule chose qu'on peut faire, man, c'est s'excuser et dire la vérité. Puis c'est la même chose qui m'arrivait quand j'étais serveur, puis le resto craquait. Tu sais, quand je travaillais au Délice Big, là. J'avais des vendredis, samedi à 900 raisins.
Ce qui est énorme.
Je faisais le club. Wow, ouais, tu sais. OK, pour ceux qui n'ont jamais fait de restauration, quand je vous dis 900 réservations, là,
énorme.
C'est fou. Là. Wow, c'était, ça n'avait pas de bon sens. Il y avait du monde à ne pas finir. Puis, tu sais, dans toutes les places où ça, le bordel a toujours pogné, une chose qui a toujours bien fonctionné, c'est l'honnêteté avec le client. Mais d'avertir le client que le problème s'en vient avant que le problème arrive. C'est une des belles, une des belles choses que la restauration m'a apprises, c'est que le monde savent que c'est normal qu'il y a des problèmes. La différence, c'est comment tu gères ce problème-là. Puis une des meilleures façons de le désamorcer le problème, c'est de prendre les devants avant que ça se passe. Parce que de cette façon-là, vous êtes capable de bloquer l'émotion du client, du moins de la tamiser un petit peu. Tandis que si vous lui laissez vivre l'émotion de frustration qui vient avec la découverte d'un nouveau problème, vous êtes fait parce que vous êtes en mode de rattrapage. Puis il y a une grosse différence entre faire du rattrapage dans un problème ou prendre les devants puis faire du damage control. Fait que c'est une grande leçon de restauration que j'ai apprise, man, de vraiment prendre les devants sur un problème puis d'être honnête par rapport à ça, tu sais. Si la cuisine l'échappait, je te dis, la cuisine l'échappe, puis voici la situation, puis écoute, je m'occupe de toi, je t'amène le dessert plus tard, je suis désolé, c'est vrai que c'est plus long que prévu, c'est-tu quoi, je peux t'amener un autre apéro au pire? Tu sais, il y a tout le temps quelque chose à faire, tout le temps.
Il y a toujours une solution, puis la partie honnêteté est tellement importante. Comment tu peux régler de pépins en avouant tout simplement que c'est ta faute? Écoutez, c'est ça qui s'est passé, ça a pris du temps, peu importe quand, comment, pourquoi, je suis conscient de la situation, je suis d'accord avec vous. Moi aussi, dans vos souliers, j'aurais la même réaction. Et l'empathie, pour moi, l'honnêteté et l'empathie embarquent, et moi, c'est une phrase qui a toujours été ultra gagnante en gestion de problèmes, c'est de dire, dans vos souliers à vous, j'aurais la même réaction, je comprends que qu'est-ce qui s'est passé n'est pas à la hauteur de vos attentes, qu'est-ce qu'on peut faire à partir de maintenant? Et tout ça, dit sans baisser les yeux un petit peu, puis je pense que c'est important, parce que comme tu
dis, honnête, là.
Ouais, honnête, c'est tes responsabilités, c'est tes...
Et les... enfin.
Vas-y.
Tu me fais flasher sur autre chose, puis c'est quelque chose avec lequel je travaille beaucoup avec mes employés, dans le sens que c'est ça que je faisais en restauration, dans le fond, c'est que quand je vais voir un client avec un problème, OK, fait qu'admettons, je sais que ton steak, il va être 40 minutes late, parce que la cuisine l'échappe complètement, puis ça marche pas, puis il y a 150 bons à l'arrière, puis t'as un fucking bien cuit, là, OK, on s'en sort pas, man, c'est 45 minutes garantie, OK. Je vais voir les clients, j'explique la situation, voici ma solution A, voici ma solution B, prends un choix, tu comprends?
Ouais.
Fait que je ne fais pas juste exposer un problème, puis ensuite, on essaie de trouver une solution ensemble. Je te présente le problème, ensuite, je te présente deux solutions que j'ai trouvées, puis je te laisse choisir parmi mes solutions. Puis, qu'est-ce qui m'enrage le plus en ce moment, puis en tant que leader, c'est là-dessus que je travaille avec mes employés, admettons, c'est que tous les gestionnaires dans le business, quand ils m'arrivent, puis ils m'appellent ou ils viennent me voir dans le bureau pour m'exposer un problème, ça ne me dérange pas que tu m'exposes un problème, il y en a partout, puis tout le temps des problèmes, mais s'il te plaît, pendant que tu m'exposes un problème, du moins, présente-moi une solution à laquelle tu as pensé.
C'est tellement important. Puis Moi, j'ai toujours dit dans ma vie, il n'y a personne qui est payé cher pour trouver les problèmes. Ceux qui sont les top guns au bout, c'est ceux qui les règlent. Et tout le monde peut les voir, les problèmes. T'sais, c'est facile, c'est pas ça. C'est comment je peux les régler, qu'est-ce que tu peux m'emmener. Puis c'est clairement, et c'est un peu, tu parlais dans le monde d'entrepreneuriat et tout ça, c'est va toujours voir ton supérieur avec une solution. On va pas le voir avec... Tout le monde peut faire ça.
Tu veux te payer cher dans la vie? Quand il y a un problème, débarque avec le problème puis une couple de solutions en même temps. Tu sais, si on revient à la métaphore des pompiers, ceux qui sont bons pour arroser des feux, comme tu dis, il n'y a personne qui est payé cher pour dire « Hey, il y a un feu là-bas. » On s'en calisse, man, on le sait qu'il y a un feu là-bas.
Tout le monde
on
le veut
savoir,
voit.
On le sait tout, OK? Comment tu vas l'arroser? C'est ça qu'on veut savoir puis c'est pour ça qu'on te paye. Puis c'est comme ça que vous allez faire de l'argent. Tu sais. Je trouve ça intéressant, man. Super. Je suis content d'avoir lancé une curveball là-dessus. J'aimerais ça qu'on... On peut vraiment aller partout puis nulle part en même temps, toi puis moi. Fait que je vais essayer qu'on reste sur des rails. Puis, si tu veux, on va juste faire un autre épisode à un autre moment donné, man. Mais tu as eu une ascension spéciale. Puis, je veux qu'on parle de. Ça a pris le champ, cette histoire-là, chez les chaises. Puis, ça serait intéressant qu'on en parle. Tu étais MD. Ben, pour maître d'hôtel, excusez-moi, là, on va essayer de pas trop parler en abréviation. T'es passé boss boy à suiteur, à serveur, à maître d'hôtel. T'as fait le chemin sur 4-5 ans. Y a un point où ça marche plus, là. Tu sais, on habite ensemble, toi puis moi, là, puis je sais que mentalement, t'es plus là, man, ça marche plus à job. Je me souviens qu'une soirée, t'es juste parti du resto en plein rush. T'as juste crissé ton camp, en bon français. Qu'est-ce qui s'est passé?
Il arrive un moment où tu es un peu trop jeune pour prendre justement ces responsabilités-là et tout ce truc-là. Pas finir par nécessairement non plus gagner à tous les jours et tout ça. Ça devient un petit peu plus difficile dans la vibe au quotidien. Donc, je décide à ce moment-là, je vais aller voir un petit peu ailleurs qu'est-ce que je peux faire. Vers où ça peut m'emmener. Et tu sais, c'est un conseil que je donne un peu à tout le monde aussi, mais vivez des expériences, faites d'autres trucs, allez voir qu'est-ce que la vie peut vous réserver à gauche et à droite. Finis par me trouver un boulot dans un restaurant un petit peu différent. Va à l'université en même temps pour avoir des bases en marketing, en management, en comptage. J'ai besoin d'un petit boulot sur le side à ce moment-là. Pour être capable de joindre les deux bouts, puis juste me rendre jusqu'au bout. Et ça a été, au final, un moment où j'ai eu l'opportunité de faire de la cuisine, qui est dans mon monde à moi.
J'aime ça comment tu parles de ton expérience. C'est fou comment le langage que tu as par rapport à cette expérience-là, c'est beau comment tu en parles, parce que moi, je me souviens de cette époque-là d'un autre côté. Tu sais, moi, j'ai vu Marc, le chum, le frérot, là, tu sais, de... T'habitais avec un coloc où c'était un peu plus difficile, t'aimais pas ça revenir chez vous, l'appartement c'était tough, t'aimais pas ça, t'aimais pas ta job. Quand je dis t'aimais pas ta job, les conditions étaient ridicules. Là. Parlons-en. Là. Je veux dire, tu travaillais comme aide cuisinier à 11,50 chez Pat de Chaise, là, disons, appelons le resto comme ça, là. Chez Pat de Chaise, tiens.
Couper des caisses d'asperges là, tu sais, à 6h30 le vendredi matin.
Puis toi, t'es là, puis tu m'en parles comme. Je sais pas, je me souviens plus du mot exact que tu viens d'utiliser, mais c'était magnifique. Puis moi, je connais la réalité de la chose derrière ça. Puis tu me fais flasher comment le vocabulaire que tu utilises par rapport à tes histoires que tu te racontes, à quel point ça a un impact sur comment tu perçois ta vie. Puis je pense que tu viens d'être un exemple parfait de ça, mais du moins, il y a juste moi qui peux le réaliser. Mais je trouve ça vraiment spécial. C'est hot en salle, man, pour vrai.
Un deuxième step back à ce moment-là.
C'est un méga step back. Là, tu travailles comme 11,50 comme aide cuisinier. Parle-nous du thinking derrière ça. T'es parti d'une job de MD chez Chaise qui payait bien, qui t'avait appris plein de choses. T'es parti pour être aide cuisinier chez Pat de Chaise. Tu habitais dans un appart qui taillissait avec un coloc qui te rendait la vie difficile. T'avais jamais la paix d'esprit nulle part, tu sais, à bien y penser. Moi, je me souviens de cette époque-là. Pourquoi, comment et comment c'est où ça t'a mené tout ça? Qu'est-ce que ça t'a appris, tu sais? Avec ton gérant qui te proposait 50 cents de l'heure, finalement. Non. Vas-y, je te laisse aller, vas-y.
Après 6 mois où il m'arrête pour me dire, tu sais, hey, ça va super bien, puis j'aimerais que tu restes avec nous, je te propose, tu sais, 11,50 à 12 $ de l'heure. Tu sais, pour moi, ça faisait aucun sens. Puis, tu sais, le plus important pour moi, c'était, ça m'a permis de voir une autre vision de mon boulot, de voir une version qui était de la cuisine. Et j'encourage, tu sais, un peu tout le monde à ouvrir ses œillères, à voir autre chose, à voir dans ton job qu'est-ce que tu peux faire de différent, mais voir un petit peu l'autre côté de la force, cuisine vers salle à manger. Et ça a été à ce moment-là où, un petit peu, puis j'ai pas peur de l'expression, où tu underperformes dans ta vie, puis tu sais, tu underperformes, et ça a été le moment où je me suis rappelé que je voulais performer, je voulais aller jusqu'au bout, je trouvais ça difficile même, tu sais, à ce moment-là, d'être dans cette situation-là. Et tu sais, ça a été une courte période, on parle de 6, 7, 8 mois environ, et je suis revenu juste après au resto où j'étais juste avant avec un feeling de « maintenant, je m'en viens pour gagner ». Maintenant, je m'en viens jusqu'au bout. Et tu sais, tous les entrepreneurs, puis je pense les meilleurs, ont tous eu un gros échec, right? Personne n'a gagné du premier coup. Personne n'est arrivé, puis « hey, ça a marché ».
Moi, le premier, même.
Oui, exactement. Tu sais, personne n'est arrivé, puis ça a marché tout de suite. Ça a marché à ce moment-là. Puis pour moi, ça a été ce step-back-là qui a permis de dire « qu'est-ce que j'ai à développer pour être encore meilleur ?» Qu'est-ce que je ne sais pas sur moi? Puis, ça a été un moment de recul qui m'a permis de revenir. Puis, ça a été, même, tu sais, ce moment-là, je m'en souviendrai toute ma vie, mais un vendredi du mois de novembre, à 6 h, il fait noir, tu te lèves pour partir, pour couper des caisses d'asperges, à pas finir. Ben, tu sais, ce moment-là, je l'utilise encore aujourd'hui. Je ne veux plus vivre ça. Je ne veux plus vivre ce moment-là. Puis, c'est une espèce de drive au quotidien qui une flamme en dedans de moi là, tu sais, qui me fait de live. Et c'est un peu un feeling aussi de à ce moment-là de ma vie, c'est le monde est contre moi, right? Mais je continue à me battre, je continue à être là, puis je vais faire ce qu'il faut pour se faire. Et si personne n'y croit, moi j'y crois, puis je m'en fous de ce que l'humain à gauche et à droite en a à dire.
Fucking intéressant, man. Sérieusement. J'en reviens pas de ton histoire, man. Sais-tu qu'est-ce qui est vraiment intéressant là-dessus?
Mm-hmm.
C'est que j'ai l'impression d'avoir eu le même feeling avec ceux qui vont écouter mon... avec ceux, en fait, excusez-moi, qui ont écouté mon histoire partie 1, partie 2, partie 3. Je pense que j'ai eu le même feeling que Marc a eu à ce moment-là, que moi j'avais quand j'étais plus jeune, où Marc, je sais que tu n'as pas écouté ça parce que dans le fond, tu connais toute mon histoire anyway, mais quand j'étais plus jeune, où j'avais peut-être plus honte, de pas honte, mais j'étais plus gêné, mettons, de tout le matériel qu'on avait ou qu'on n'avait pas. Je veux dire, quand tu as fucking, je sais pas moi, 9 ans, man, tout le monde écoute les Pokémon, puis toi, tu n'as même pas le câble chez vous, puis tu arrives à l'école, tout le monde parle des Pokémon, puis tu sais pas de quoi parler. Moi, j'ai eu ce feeling-là de hors de contrôle quand j'étais plus jeune, qui encore aujourd'hui me fuel. Fait que je pense que les deux, on a toujours été en mode je fuis quelque chose, peu importe ce que tu fuis, tu sais. C'est vraiment intéressant de t'entendre parler de ça, mais sais-tu quoi, j'ai envie de te lancer une autre curveball.
Mm-hmm.
Parce que tu sais, on parle de. Il n'y a personne qui réussit du premier coup, puis ouais. Tout le monde qui nous écoute en ce moment, ils ont écouté mon histoire, puis ils savent que je viens de Fit Addict vers Believe. Qu'est-ce que tu penses, admettons, du Julien de Fit Addict versus le Julien de Believe? Il n'y a pas grand personne qui sont capables de répondre à cette question-là. Il y a sûrement toi, ma soeur, puis DP, admettons, puis Kane. Mm-hmm. Je serais curieux de savoir qu'est-ce que tu en penses, admettons.
Résilience. Tu sais, c'est okay. Un peu... T'as pris un gamble qui était intense, t'es parti de ton truc, tu t'es dit, je me lance, puis moi, je me souviendrai toujours, tu sais, t'as un succès aujourd'hui que tu mérites, qui est vraiment, vraiment le fun, mais à l'époque, c'était pas aussi évident et clair pour personne, je pense. Et tu sais, c'est à ce moment-là où tu t'es lancé, où t'as dit au monde, je saute, j'y vais, je fonce, et que ça finit par pas marcher à la hauteur des attentes. Mais je pense que c'est ça qui a créé qui tu étais, parce que tu t'es arrivé dans un mindset, puis on parle beaucoup d'état d'esprit ensemble, puis je pense que c'est ce qui drive nos résultats puis nos journées au quotidien, mais tu es arrivé dans un mindset, puis excuse-moi l'expression anglaise, mais I'm gonna prove the world wrong. Je vais prouver à la planète que je suis capable, que c'était une bonne idée, et je vais double down sur ce que j'ai fait. Je vais y aller. J'ai appris de cette époque-là. Et un peu, c'est un peu, je pense, un petit peu une analogie d'un combat de boxe, mais c'est le premier coup de poing qui fait mal. Après ça, tu es habitué et tu l'as déjà eu. Tu savais à quoi t'attendre. Puis je pense que tu en es servi comme tremplin pour réussir par la suite. Ça ne devient pas nécessairement changer qui tu es, mais ça devient changer la flamme en dedans de toi qui te permet de pousser et d'aller plus loin.
Ouais, clairement, parce que tu sais, fait à Dick, j'étais parti sur un strikeout. Là. Mm-hmm. J'avais, tu sais, je me souviens, man, j'étais avec ma blonde à un moment donné, puis je me souviens d'avoir pris un screenshot de mon compte de banque à cette époque-là. Un moment donné, je vais le poster sur Instagram, ça avait juste pas de sens. Puis je me souviens que ma blonde l'a regardé, puis elle était comme sérieusement, ça me donne le goût de faire une crise de panique. Là. Elle était comme ça, pas de bon sens. Tu sais, je veux dire, les dettes que j'avais, puis l'argent que j'avais dans le compte chèque. Puis je me souviens, c'est comme 11,80, puis t'as comme 67 000 piastres de dette, plus la dette de la BDC, plus je devais de l'argent en cash à quelqu'un d'autre. C'était comme. Sérieux, man, j'avais des. Ça avait pas de sens, là. Tu sais, j'étais. Je perdais 0, tu sais, je perdais 8-0 dans cette game de balle-là, puis on était en fin de septième. Là. Mm-hmm. C'était l'enfer. Puis c'est cool de voir comment t'en parles, tu sais, d'être capable de se faire ramasser autant que ça, puis d'être tombé aussi bas, puis d'être capable de remonter, mais dans la même industrie, de jamais avoir changé, puis de jamais avoir fait « OK, c'est pas pour moi », tu sais, mais plutôt d'avoir fait « Non, je sais maintenant qu'est-ce qui est pour moi, puis qu'est-ce qui est pas pour moi là-dedans, puis je vais double down sur « je sais où est mon edge, puis qu'est-ce que je suis capable de faire ». Mais là, c'est cool de l'entendre de toi. Puis je vais poser la question à Kane DP et ma soeur. Les seules personnes qui seraient capables d'en parler avec moi. Mais c'est intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus.
Ah non, vraiment. Puis tu sais, je pense justement, comme tu dis, que tu as appris énormément de cette époque-là, de cette histoire-là et tout ça. Puis éventuellement, même si des moments vont avoir été des moments très difficiles, je serais pas surpris que dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, ce soit tes meilleurs souvenirs.
Ben oui, c'est sûr. Honnêtement, même aujourd'hui, des fois, j'y pense. Là, c'est comme, j'écoute encore des tunes que j'écoutais dans ce temps-là, puis je me motive encore avec les mêmes tunes avec lesquelles je me motivais quand je commençais Fit Addict. Puis je me souviens, j'allais au World Gym Neuchâtel enregistrer des vidéos à 11h30 le soir parce que je voulais pas qu'il y ait personne dans le gym. Puis c'est ma soeur qui venait avec moi, puis ma soeur me filmait. Puis je me sens redevant à l'infini là, pour tout ce monde-là, puis que ce soit toi ou ma soeur ou tout le monde que. Il était là d'une façon ou une autre. Là, c'est fou, man. T'sais. On n'oublie pas ça. Tu n'oublies pas d'où tu viens. Tu n'oublieras jamais le café. Je n'oublierai jamais ça non plus. Là. C'est...
Jamais que tu oublies ces trucs-là. Pis d'où tu viens, font juste qui tu es. Final, c'est tout simplement. Pis, le plus gros mot, je pense, c'est de ne pas avoir peur de se péter la gueule. C'est tellement ça. Tu apprends ces moments-là, tu apprends ces trucs-là, puis vas-y, fonce, saute. T'sais. Moi, je dis souvent, dans la vie, tu es le seul à courir ta course. Tu es sûr de la gagner.
Exact.
Tu es le seul à la
exact.
Pas juste de courir. Je me fous à quelle vie tu cours. Ça me dérange absolument pas. Mais tu es le seul qui vit tes objectifs, qui a envie de les accomplir, et il n'y a personne qui va t'empêcher de t'y rendre. Donc, sois juste sûr que tu cours, que tu sois là, puis tout va tomber en place à quelque part.
Mais tu sais, pour deux personnes comme toi et moi qui se foutent un peu de l'opinion des autres dans le sens que sans nécessairement se foutre de l'opinion des autres, on sait qu'est-ce qui est important pour nous puis on sait que si on fait quelque chose qui est bien pour nous puis qui est pas mal pour la société, exemple, je sais que si je vends de la cocaïne, ça se peut que c'est bon pour moi, mais c'est pas bon pour les autres. Mais dans le sens que si je fais quelque chose de bon pour moi puis je sais qu'il n'y a rien de mal pour la société, je vais le faire no matter what, de qu'est-ce que tu penses de moi. Puis ça, c'est que ce soit mes parents ou que ce soit toi ou que ce soit ma blonde, que tu comprends? Puis toi puis moi, on a cette force-là, mais c'est pas tout le monde nécessairement qui est capable de faire comme « Ah, je me fous de qu'est-ce que mes parents pensent, je le fais pareil, puis je sais que c'est bon pour moi. » Puis plus tard, ils vont faire comme « OK, là, je comprends mieux. » Tu sais, tu comprends?
Oui. Ils vont comprendre. Puis tu l'as vécu toi aussi dans ton parcours. Puis je l'ai vécu aussi où les moments où tu as l'impression qu'il n'y a personne autour de toi qui t'encourage, qui te mobilise, qui est là.
Ah ouais.
Et j'aurais souvent tendance à dire tu as ton sweet spot. Mm-hmm. C'est vraiment là parce que justement, quand les gens ils te disent je n'ai pas confiance que tu réussis, c'est pas qu'ils n'ont pas confiance que toi tu réussis. Ils pensent qu'eux ne réussiraient pas.
Exactement, man. Exact.
Ils transposent vers toi, tu sais, c'est leur pensée limitante que tu disais tout à l'heure, mais ils n'ont pas l'impression que toi tu vas réussir parce qu'eux se disent qu'eux ne réussiraient pas. Mais non, tu sais, t'es le seul à vouloir tes trucs, à vouloir avoir ta vie de rêve à quelque part. Mais tu sais, moi, le plus gros conseil que je donne, c'est cours, mon ami, cours, là, tu sais. Fais juste ça, puis regarde pas l'opinion des autres parce que les gens ne veulent pas te voir réussir. C'est plate à dire, mais les gens ne veulent pas te voir réussir.
Puis c'est drôle que tu en parles parce que tu sais, dans le fond, quand tu mets ça en perspective, là, tout le monde s'en calisse de tes buts, là. Comment que je veux dire?
Tout le monde s'en connaît.
Il y a peut-être deux, trois personnes qui t'appuient, là. Tu sais, moi, je sais qu'il y en a qui m'appuient autour de moi, là, toi inclus, là, puis même chose pour toi, tu sais, je suis peut-être là pour toi. Puis... Mais admettons, ultimement, là. T'es la seule personne qui se pose et care à ce point-là de tes buts. Fait que, je veux dire, pourquoi tu t'en fais autant avec l'opinion des autres? Puis, en tout cas, moi, c'est drôle parce que toi puis moi, ça nous vient vraiment facilement. T'sais. Mais c'est pas un concept qui vient facilement aux autres, puis il faut pas le prendre pour acquis. T'sais. Puis c'est pour ça qu'il faut en parler. T'sais, pour nous, ça a été payant là, de suivre notre instinct. Là.
Ouais. Puis,
vraiment.
T'es pas aussi important que tu penses pour les autres.
Exact, final, exactement, man. C'est ça.
T'sais, on
s'en crise de toi, dans le fond, là.
Tout le monde s'en fout. Là. T'sais, quand tu as des pépins là, t'sais, dans ta vie personnelle, tu t'arrêtes pas pour dire « Moi, ça me fait du bien parce qu'un autre les vit ou les vit pas » ou ainsi de suite. T'sais, les gens ne te donnent pas autant d'importance que tu penses.
Non, puis c'est la même chose de toi par rapport à toi. Là. C'est juste ton ego. Là. C'est ton ego qui a peur d'être touché. C'est la même chose que quand tu rentres dans le gym puis tu mets du gros beat dans tes oreilles puis tu te sens comme The Rock puis tu as l'impression que tout le monde te regarde. Il n'y a personne qui te regarde, man.
Personne.
T'es tout seul dans ta tête à te regarder. Ouais. C'est la même chose dans la vie. Là. Okay? C'est la même affaire. C'est ton ego qui parle. tu pars. Okay, on en revient dans ton histoire. C'est vraiment intéressant. Je suis content qu'on est allé là. On en revient dans ton histoire. Tu pars de Pattes de Chaise. Tu étais aide-cuisinier là-bas. Il est où le déclic? Pourquoi tu pars? Puis je sais que tu es revenu chez Chaise. Là. Moi, je le connais, l'histoire. Parle-nous du changement. Pourquoi tu es parti de Pattes de Chaise? Pourquoi tu es revenu chez Chaise puis tu es revenu avec un autre rôle? Fait que...
Avec un autre rôle, avec un état d'esprit différent complètement, mais ça a été avec un état d'esprit, je n'ai pas allé jusqu'au bout de mes rêves à la première fois, je vais y aller jusqu'au bout ce coup-ci, et le fait de me planter, entre guillemets, pendant cette période-là, a été un fuel de dire... Je vais réussir à le faire. Je sais qu'est-ce qui s'est passé qui ne m'a pas permis de marcher. Et le fait de perdre des certaines conditions, du confort pour un moment, m'a fait plus l'apprécier derrière aussi. Et c'était ça parce qu'ensuite, quand je suis revenu à l'autre restaurant où tu reprends un petit peu du galon, tu reprends tes places, tu reprends ton équipe, bien, j'étais drôlement plus reconnaissant au quotidien, au jour le jour d'avoir qu'est-ce que j'avais parce que je l'avais perdu. Et c'était ça qui a mobilisé, qui a fait la suite jusqu'au moment où, bon, tu y vas jusqu'au bout et il y a autre chose que la vie t'amène. Mais c'était un peu comme toi, le même truc, tu sais. Prove the planet wrong. Parce que les gens qui ont été là pour toi, qui t'ont dit tu vas réussir à quelque part, ont été dans un mindset différent où tu n'as pas qu'est-ce qu'il faut et je veux voir ailleurs. Donc, ça a été... Je vais revenir contrôler l'image que j'ai à travers un peu tout ça.
Et, excuse-moi, ça c'est Cloud Line, man, mais ma coupe sangria. Il est bon? Il y a un bon pinot noir d'ailleurs, ouais. Je recommande. Tu m'avais dit quoi tantôt? Excuse-moi, tu m'avais dit
Oregon?
Ah ben oui, t'as l'air.
Ah oui, c'est blanc et bleu avec des nuages. Là.
Mm-hmm. C'est un bon pinot noir, je recommande fortement. Ma blonde n'est pas rouge, c'est d'habitude. Mais tu penses? Ses écouteurs à étudier, elle m'écoute pas vraiment. Mais j'ai endormi dans un verre, fait que d'après moi, c'est bon. Tu sais, quand je suis parti de Fit Addict à Believe, j'essayais pas de prouver personne wrong, tu sais, j'essayais juste de me prouver positif dans le sens que je savais qu'est-ce que je valais, tu comprends? Mais à chacun son énergie, je pense pas qu'il y a d'énergie négative dans vouloir prouver les autres wrong. Je trouve juste qu'il y a plus de puissance quand tu veux toi-même te prouver de quoi de positif, parce que pour moi, j'ai une soif illimitée de me prouver quelque chose dans le sens que chaque matin, je me lève et je me trouve imbécile. Ça, c'est dangereux, par exemple. Mais tu sais, je suis sûr que tu as le même problème que moi dans le sens où moi, chaque jour, je me lève puis c'est jour 1 dans ma tête. Puis je suis le nouveau à l'école, tout le temps. Même si, pour la plupart du monde, je suis un expert dans mon domaine, tu comprends? pour moi, je suis le nouveau à l'école. J'arrive avec mon sac à dos puis je connais personne. Tu sais, je suis comme, on dirait que j'ai une mentalité de day one tout le temps. Tu sais. Puis ça me permet de rester assoiffé. Je pense pas nécessairement que c'est la meilleure façon de faire. Je travaille là-dessus dans le sens que, tu sais, à un moment donné, il faut que tu reconnaisses quand même le chemin que tu as fait. Puis un couteau à double tranchant, où je me frappe facilement sur la tête avec un marteau parce que j'ai été habitué à ça. Où j'ai tellement strike out au début. Moi, j'ai tellement été deep dans les dettes. Puis j'ai tellement eu peur de me planter. Puis c'est sûr que j'essaie de garder une mentalité de day one pour me protéger, tu comprends? Mais en même temps, c'est dangereux parce qu'à un moment donné, tu te trouves imbécile à l'infini, là, si tu vois ce que je veux dire.
Ben, tu sais, je vois clairement ce que tu veux dire, puis c'est tellement ça qui devient délicat dans des postes de manager, dans des postes de propriétaire d'entreprise, c'est qu'à tous les jours, tu vas perdre. Tu dois l'accepter, tu dois vivre avec ça, ça doit faire partie de ton quotidien. Mais être un bon entrepreneur, c'est d'accepter de viser la perfection à tous les jours et d'accepter que tu t'y rendras jamais. Tu ne vas jamais t'y rendre. Donc, rendu là, puis tu sais, c'est là que j'aime beaucoup ton mindset et ton état d'esprit, parce que je dis souvent, vois ta vie comme un jeu vidéo. Tu sais, dans un jeu vidéo, tu n'as pas peur, bon, mais tu sautes, machin, puis tu te dis, au pire, s'il m'arrive quelque chose, je paye sur start, je fais game over, puis je recommence. Mais je pense que la vie, c'est un petit peu ça. Tu sais, il n'y a rien qui va venir tant que ça nous toucher. Tu dois prendre des risques, tu dois être là. Et au quotidien, chaque jour est une opportunité de recommencer, de faire les trucs différents. Puis c'est une super de bonne technique de laisser tout le passé derrière à tous les matins et de recommencer au final, au premier jour. Je trouve ça super intéressant puis super pertinent. Et le danger, je pense, tu parlais, je sais pas si c'est nécessairement la meilleure technique ou la meilleure stratégie. Je pense que le danger, c'est de perdre un petit peu l'amour que tu as pour toi, right?
Ouais, ben tu sais, c'est... Oui, puis non, parce que tu sais, je travaille beaucoup là-dessus aussi, puis c'est une faiblesse que tu exposes, par exemple, tu sais, ou ça serait vraiment possible. Par contre, moi, je contrebalance où je fais tellement d'introspection, puis j'y pense tellement tout le temps, constamment. Je sais que ça fait pas... Je sais que... Excuse-moi, c'est Cloudline. Ouf! Je suis comme un rot, mais pas rot. Voilà. Ou ça serait facile pour moi de me dire que je suis pas bon dans le sens que je sais que rationnellement, j'ai fait du chemin en maudit. C'est émotionnellement où je me protège, tu comprends? Ou, sais-tu, la vraie chose, c'est qu'on dirait que j'ai peur que si je commence à me trouver bon, que je vais devenir soft.
Ouais. Mm-hmm.
Comment? C'est drôle parce que dans mon industrie, j'ai l'impression des fois de compétitionner avec du monde qui sont nés dans le soft. Tu comprends? Moi, je le vois tout de suite là, si t'es né dans l'aine là, quand t'étais petit. Puis c'est correct, il n'y a rien contre ça. J'ai rien contre ça, c'est pas ça que je veux dire. Mais je le vois dans la hargne, dans la résilience, dans la peur de tout perdre. Il y a quelque chose qui n'existe pas chez ces personnes-là, tu comprends? Puis moi, je veux garder cette soif-là malgré tout ce que j'ai maintenant, tu comprends?
Oui.
Je veux garder cette mentalité-là parce que je trouve qu'il y a une grande puissance derrière ça, il y a un grand pouvoir. Tu sais.
Puis c'est comment, justement, tu sais, dans la situation où tu as eu un succès qui a été exponentiel dans les dernières années, puis tu sais, moi, ça m'impressionne beaucoup, c'est comment tu gardes cette faim-là au quotidien? Comment tu gardes ce désir-là de pousser, de challenger, de changer ta méthode de pensée et tout ça? Parce que ça devient un petit peu facile, tu sais, de mettre le cruise control, puis de continuer dans ce sens-là, puis c'est ce qu'il y a, puis je pense que c'est une force que tu as au jour le jour de me dire comment je peux rendre cette journée-là magique, comment je peux me coucher puis être connaissant, tout simplement.
C'est ça. Ben, je pense que c'est juste l'amour pour la game, dans le fond, puis l'amour du développement personnel, puis dans le fond, l'amour de vouloir devenir une meilleure personne à tous les jours, parce que, tu sais, quand tu commences à faire un salaire X, admettons le salaire que moi je fais en ce moment, on va l'appeler salaire X, quand j'ai... Je veux dire, l'argent a perdu son sens, là.
Ouais.
Oui, je veux dire, comme ça... Quand même que tu me dis là, que je vais faire 50 000 piastres de bonus cette année ou 100 000, là, ça ne change à rien dans ma vie. Tu comprends? Fait que quand tu arrives à ce point-là, si tu n'as pas quelque chose de plus fort qui te drive que faire X salaire, t'es fait. tu vas devenir soft. Puis moi, je me protège avec ça, tu sais, dans le sens que ça va plus loin que juste faire des sous, parce que à un moment donné, ça donne plus rien, là, faire des sous, là, tu sais.
C'est le fun pour les 2-3 premières semaines que tu les fais, mais...
Absolument, vraiment. Mm-hmm.
Un moment donné, tu fais juste t'habituer, c'est juste normal, tu te demandes comment je peux en faire plus, et tu vas toujours trouver quelqu'un, excusez, qui en a plus que toi, d'une manière ou d'une autre.
Ah, tout le temps, man. Tu sais, j'ai eu un R8, admettons, puis là, tu vois des Ferrari passer, puis quand je dis « tu », c'est « je », là, OK?
Ouais.
J'haïs ça quand je commence à raconter des affaires que genre... Non, c'est moi, c'est ma perception. Je suis désolé, je ne veux pas dire dessus. Là. C'est pas le public en général, là. C'est moi. Là. Mais admettons, je roulais un R8, je voyais un Ferrari passer, puis j'étais là, waouh, ça c'est un char. Crèche ton R8, man.
Ouais.
Des grises, là. Ouais. Tu comprends?
Tu auras ta Ferrari, tu voudras un avion. Là.
Ça change. Oui, puis t'as l'avion, tu veux la fusée qui va fucking sur planète Mars. Ça change rien. Il y a tout le temps quelqu'un qui en a plus. Puis, tu sais, ma relation avec l'argent a totalement changé. Puis j'aime ça, les autos, puis je vais en acheter d'autres, pas grave. Mais tu sais, admettons, je trouve que c'est une autre chose. Quand tu commences à faire des sous, c'est de définir qu'est-ce que je veux faire ultimement avec ces sous-là. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Puis tu sais, admettons, là, j'ai flippé mon char.
Ouais.
Puis je me suis acheté un boat à place. Pourquoi? Parce que le boat, je peux inviter mes chums. Puis tu vas descendre de Québec, tu n'auras pas le choix. Parce que tu n'auras pas le choix de nous voir, tu comprends? Puis on va faire des journées, puis je vais partir avec ma blonde, on va se popper un rosé, puis on va faire nos affaires, puis je vais aller avec mes chums. Puis... Fait que je pense que c'est vraiment important de se poser ces questions-là, surtout quand tu commences à faire des sous, à savoir... Puis j'ai fait un épisode là-dessus qui s'appelle « Définir sa rich life ». Vraiment important de se poser ces questions-là, savoir ça veut dire quoi faire des sous dans le fond. Puis c'est important de le définir avant de se rendre là, parce que je trouve que quand on est rendu là, il y a beaucoup d'émotions d'attacher à cet argent-là, tandis que quand tu te poses les questions avant, tu es beaucoup plus rationnel par rapport au chèque qui rentre toutes les semaines. Puis pour moi, ça a été ça. Ça a été « OK ». Comment je me sens par rapport à ça? Le R8, ça a été cool. C'était un objectif qui était super, super émotionnel pour moi. Je l'ai atteint, je l'ai vécu pendant un an. C'était le fun. Est-ce qu'avoir une auto deux places qui marche au coton, c'est cool? Oui, c'est le fun. Est-ce que je vais le revivre un jour? Probablement. Dans un format plus gros, mon prochain char de rêve, c'est un McLaren 720S. Mais pour l'instant... Qu'est-ce qui m'appelle le plus, c'est de partager des moments avec ma blonde, avec mes amis, avec ma famille. Puis la meilleure façon de le faire, c'est d'avoir un bateau. Donc, c'est ça que je veux faire. Fait que, tu sais, c'est toujours de se poser des questions. Puis, tu sais, je le répète dans d'autres épisodes, c'est de pas être une feuille dans le vent. Tu sais, c'est facile en entrepreneuriat, puis c'est facile quand on a... C'est pas nécessairement en entrepreneuriat, mais en intrapreneuriat ou même quand on a une carrière, quand on commence à faire des sous, de se laisser prendre comme une feuille dans le vent, puis se laisser guider, puis laisser nos salaires prendre des décisions à notre place. Puis... Je suis content d'avoir fait mon propre chemin à travers ça, puis je vous invite à faire la même chose. D'ailleurs, je prends une pause 2 secondes. On vit un beau moment. Marc, sérieux, c'est quelque chose qu'on aurait dû faire il y a bien longtemps, toi puis moi. Là, c'est quoi ta deuxième 1664? Il me semble que
ouais.
La coupe sangria se remplit plus vite que...
Ben, tu sais, c'est tranquille. Pour moi, c'est samedi, c'est le début du week-end. Tu sais, en restauration, tu n'es pas en congé sur des bases régulières. Mais non, très relax aujourd'hui. Puis je suis super content qu'on jase. C'est toujours hyper pertinent. Puis ça m'amène tellement de cheminement, souvent, même après qu'on en ait jasé beaucoup
ben
plus.
Oui, ben oui, ça brasse la cage, moi aussi. Puis je prends 2 minutes, s'il vous plaît, si vous aimez le podcast, n'oubliez pas. Hein, aujourd'hui, ça va être un long épisode. Je ne sais pas, on est rendu à combien de temps? Honnêtement, gros, j'ai aucune idée. Puis j'ai ma feuille à côté de moi, puis on n'a pas rentré dans un des sujets que j'avais écrit.
Pas encore.
Pas un. Encore. OK. Fait que je m'attends à une autre 45 minutes, peut-être, admettons 30. Là. Mais je vous invite, s'il vous plaît, si vous aimez le podcast, n'oubliez pas, hein, c'est important quand vous allez finir de l'écouter, allez sur iTunes, laissez un commentaire, un 5 étoiles. Si vous êtes sur Spotify, on s'abonne. Puis bien sûr, pour ceux qui partagent dans leur groupe étudiant sur Facebook et ou sur Instagram, merci beaucoup, je vous aime. Marc, on va rentrer dans le plus technique un peu. Je pense qu'on a fait beaucoup de blabla, d'histoires, puis c'est le fun, puis on pourrait continuer, on a des histoires à plus finir. Mais rentrons un peu plus technique.
Ouais.
J'aimerais ça qu'on parle de gestion de staff, de peur de déléguer, de micromanagement. En restauration, il y a beaucoup de ça, on s'entend?
Oui, clairement.
Je ne sais pas où on s'en va, mais j'aimerais ça qu'on commence avec l'art de mettre quelqu'un à la porte, puis on verra okay. Où ça nous mène. Parce que toi, t'en as mis du monde à la porte, là. Je veux dire, t'as des boss boys qui rentrent pas, qui sont trop sabres, en restauration, c'est l'enfer, là, on s'entend. T'as des serveurs qui sont juste pas assez bons. Parlons de ton cheminement. T'en as mis du monde à la porte, t'en as engagé du monde, c'est le fun, t'as une belle expérience, une expertise que aucun de mes invités à date a, je veux dire en général, comme pas au volume que toi t'as fait, admettons. Fait que, premièrement, on va parler de l'embauche avant de se rendre à la mise à pied. Est-ce que tu es d'accord avec moi s'il y a juste ton ego qui dit que tu es une personne qui est super bonne pour avoir du flair puis d'engager la bonne personne?
Il y a clairement juste ton ego. Puis tu sais, c'est ton ego t'empêche d'embaucher correctement. Puis le problème de ton ego sur ton embauche, c'est que tu vas embaucher quelqu'un, ton ego va te dire que c'est la meilleure personne du monde pour faire le travail, pour y aller jusqu'au bout. Et après, quand cette personne-là, si jamais elle ne performe pas, ça ne marche pas, tu ne voudras pas la laisser aller. Parce que ton ego va dire, je l'ai embauché, j'avais raison, ça devrait marcher. Et tu sais, il y a des gens dans la vie qui sont bons pour se vendre, qui vont performer dans des entrevues, puis tu as des perles rares qui sont, à l'inverse, incapables de passer des entrevues que ça rend timide, que ça rend complètement différent. Et ton ego doit pas être dans ton embauche, je pense pas, pour rien du monde.
Je suis tellement d'accord avec toi. Ou même moi, j'ai engagé des personnes dans la biz, plus au niveau de la production, que je les ai passées en entrevue, puis j'étais comme, bouf, je m'attends pas à grand-chose. Puis finalement, oh, je me fais surprendre, ou cette personne-là fleurit de tout ça. Puis autant que j'ai eu les embauches, la personne est très, très extravertie, puis ça a avéré une excellente employée, mais encore là, c'est pas parce que moi, j'ai du flair. Tu sais, tu comprends? C'est comme, jamais je vais me dire, moi, j'ai du flair, tant mieux, tu sais. Jamais, je pense qu'il faut faire attention, guys, tu sais, auditeurs, auditrices. Faites attention à ça. Il n'y a personne qui est capable de voir l'âme de quelqu'un pour faire comme cette personne est parfaite. OK? Je veux dire, le monde débarque en entrevue, il se présente comme la couverture du livre qu'ils sont réellement.
Mm-hmm. Et tu sais, comment tu peux avoir un feeling? Puis tu sais, tout de suite, ton ego t'empêche justement d'aller vers l'avant avec quelqu'un, parce que tu te dis, c'est moi qui l'ai embauché, j'y croyais, et ça vient tuer un petit peu ton potentiel, parce qu'après ça, tu ne vas pas aller vers l'avant avec cette personne-là, tu vas continuer à la garder, justement, parce que tu t'es dit que j'étais la meilleure personne du monde à embaucher, là. Puis il n'y a personne qui est le meilleur humain au monde à embaucher, il y a des bons employés, il y a des mauvais employés, that's all, là.
Et tu sais, ma mentalité, c'est moi qui fais toutes les RH, puis je me suis découvert une passion d'RH où, honnêtement, en business, je me suis rendu compte que si tu me dirais, tu peux juste faire une chose maintenant, ça serait quoi? Puis je te dirais, ça serait juste de la gestion de personnel. J'adore ça. J'aime ça, m'asseoir avec les employés, puis faire des reviews, puis juste savoir comment ils se sentent. Puis, tu sais, je pense que le monde le savent à biz. Puis, il y en a plein qui rentrent dans mon bureau, puis ils me racontent des affaires fucking personnelles, puis ils se mettent à pleurer dans mon bureau, man. Puis, maintenant, je suis comme. Comme je vis super bien que ces moments-là, ça ne m'a même pas mal à l'aise. Ça m'a déjà arrivé, OK, d'avoir une personne en entrevue qui se met à pleurer dans l'entrevue. Me poser la question à savoir comment je peux rendre service à cette personne-là, dans le sens que moi, en tant que propriétaire ou en tant que gestionnaire d'RH, admettons, sans être propriétaire de business, ça ne change rien dans la conversation, mais en gestionnaire d'RH, comment je peux rendre service à cette personne-là? Dans le sens que je trouve que la responsabilité d'un leader, c'est pas d'avoir des personnes qui travaillent pour lui, mais plutôt d'être capable de travailler pour ces personnes-là qui travaillent pour lui.
Ah, merci.
C'est toujours la mentalité de « qu'est-ce que je peux faire pour toi, pour t'aider? Mm-hmm. » Pour qu'ultimement, toi, tu m'aides à réaliser. Tu comprends?
Ben, tu sais, toutes leurs victoires sont tes victoires.
Toutes leurs victoires sont mes victoires. C'est ça la beauté de la chose. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Comment je peux t'aider aujourd'hui?
Oui, et ce niveau-là aussi, puis je pense que ça devient une de tes forces. Quand tu dis à un employé, à un collègue, peu importe comment tu l'appelles, comment je peux t'aider, tu te mets à son niveau. Vous êtes des humains à part entière et c'est là que la discussion
exactement
est créative et bonne, permet d'aller parce qu'on est sur un même niveau. Je ne suis pas dans un setup où je suis ton boss, où je te jette mon statut au visage. C'est, hey, quand on va aller voter, là, tu sais, puis c'est les élections aux États-Unis présentement, mais Barack Obama puis Joe Blow au Michigan, ils ont le même vote puis ça vaut le même truc. Donc, on est tous des humains à part entière et te mettre au niveau des gens avec qui tu parles est la meilleure manière pour faire passer un message.
Et tout le temps, tout le temps.
Aussi drôle soit-il, la meilleure manière pour te faire respecter comme patron.
Mm-hmm. Puis c'est con. J'ai eu un meeting avec un de mes employés cette semaine, puis un nouveau, là, tu sais, ça fait moins d'un mois, admettons, je considère un nouveau. Puis il me disait, man, c'est vraiment débile comment ici tu gères, dans le sens qu'on a l'impression qu'on, toi puis moi, on est sur le même pied d'égalité sans être. Il dit, je le sais, là, rationnellement, qu'on n'est pas sur le même pied, puis c'est toi qui me dis quoi faire. Mais tu sais, comme il dit, j'ai l'impression qu'on est sur le même pied d'égalité, man. J'étais comme, on est sur le même pied d'égalité, dude, c'est pour ça. Comme, je suis pas meilleur que toi, là.
Non, puis tu sais, chaque personne doit comprendre. Puis tu sais, moi, c'est plus vrai pour moi en restaurant que peut-être dans une compagnie de suppléments que toi, tu fais. Mais tu sais, puis tu l'as connu, tu l'as vécu, des chefs un petit peu en power trip, il y en a partout.
Mm-hmm. Oh my God, ben oui.
Oh my God, oui. Mais tu sais, mm-hmm. 500 restaurants. Donc, tu dois comprendre qu'il y a 1500, si tu peux être dans un, à Québec, il y a 1500 restaurants qui fonctionnent sans toi. Donc, pourquoi tu te prends aussi au sérieux? Pourquoi tu te considères aussi important? Il y a tellement de business qui vont fonctionner sans que toi, tu es là. Et les gens le savent que tu es le boss. Tu n'es pas obligé de leur dire au quotidien. Les gens le savent. C'est toi
c'est
qui
bon,
leur...
C'est que c'est bon.
Et les gens font juste le savoir. Puis je trouve tellement que ça tue ta communication puis la communication avec une relation employée que je compare souvent à une relation de couple, tu sais. Tu peux pas te mettre avec ta blonde à dire que tu es plus importante qu'elle dans la relation. Tu l'es pas. Tu l'es pas. Donc, tu n'es pas plus important que ton gars de production dans ta business. C'est plate à dire, mais c'est ça.
Puis moi, qu'est-ce qui est fucked up, c'est que, mettons, je suis à la tête de deux entreprises qui sont complètement différentes.
Mm-hmm.
Vraiment complètement différent dans le sens que, mettons, Believe Lab, c'est manufacturier, donc les ouais. rôles entre personnes sont très, très différents. Tandis que tu arrives dans Believe où tu as une hiérarchie différente où là, tu as des leaders dans différents domaines. Ou, admettons, tu as marketing, tu as social media, tu as des peu aux opérations qui, lui, gère ses propres personnes. Tu sais, tu as plusieurs mm-hmm. départements. Tandis que j'arrive dans le labo, puis c'est comme moi qui est ouais. moi, QA, puis là, production, tu sais, fait que j'ai vraiment un feeling de restauration dans le labo, puis je trouve que la restauration m'a beaucoup appris, justement. Puis tu sais, mon père nous a un peu coaché les deux en restauration, on va se le dire.
Okay? Clairement.
Puis s'il y a une leçon dans la vie que Pam m'a appris, puis j'ai tellement hâte de l'avoir sur le podcast, mais honnêtement, je pense qu'après toi, ça va être mon meilleur épisode, on s'attend, ou avant toi, malheureusement. Mais ça va être parmi mes épisodes les plus incroyables. Si Pam m'a appris quelque chose dans la vie, c'est que t'es pas plus important que le laveur de vaisselle. Puis un jour, non. tu vas avoir besoin du laveur de vaisselle.
Ouais.
Puis salue-le, intéresse-toi à tout ce qu'il dit, peu importe. Puis à chaque fois qu'il te dit quelque chose, ouvre-toi les oreilles puis écoute-le pour vrai. Tu sais, cette leçon-là, je l'ai traînée avec moi partout en business. Puis peu importe à qui je parle, t'es super important puis mes oreilles sont ouvertes grandes comme ça, man. Exactement. Puis quand je te demande comment ça va, c'est pas un signe de salutation. C'est une vraie question.
C'est une vraie question, je m'intéresse à la réponse. Puis c'est pour ça que les gens continuent à travailler pour toi. Et tu sais, il y a une expression en anglais qui dit « People leave bosses, they don't leave jobs ». Mais pour moi, j'y crois.
Ah, vraiment.
J'y crois jusqu'au bout.
Ah, moi aussi. Moi aussi.
Tu as un rôle avec tes employés, avec tes collègues, avec tes humains, mais les traiter comme un humain à part entière va déjà être la première étape. Et tu sais, moi, j'ai toujours dit, chaque personne que tu vas croiser dans ta vie va être meilleure que toi à quelque chose.
100%, man.
Tu as une chose à apprendre de chacun des humains avec lesquels tu vas côtoyer, que tu vas travailler. Mm. Peu importe que c'est le laveur de vaisselle, que c'est le directeur marketing, ça ne me dérange pas, mais cette personne-là a quelque chose à t'amener, va le chercher. Puis la pire manière pour te faire considérer justement comme le supérieur, comme le patron, c'est de te mettre à acheter ton statut à gauche et à droite un peu partout. Et tu sais, toi, t'aimerais avoir quel boss? T'aimerais avoir quelqu'un qui est disponible, qui est là, ou t'aimerais avoir quelqu'un dans la porte fermée qui n'existe pas, qui n'est pas dans ta vie? Tu sais, je pense que c'est un choix facile.
Absolument. Puis si vous voulez un bon conseil de small talk, c'est justement ça. C'est si vous êtes avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, faites juste lui poser des questions sur lui. Sur elle, peu importe. S'il y a bien un sujet que ces personnes-là connaissent, c'est eux-mêmes. Puis s'ils ouais. aiment parler de quelque chose, c'est d'eux-mêmes. Donc, posez des questions, vous faites deux pierres d'un coup. Un, vous en savez plus sur cette personne-là, donc vous êtes capable d'adapter votre conversation à elle. Non seulement ça, mais elle va sentir que vous êtes vraiment intéressé à elle. Donc, c'est vraiment important comme concept. Puis il faut le comprendre, tu sais. arrêtez de parler de vous, parlez des autres, parce que vous pouvez poser des questions à l'infini, puis c'est vraiment intéressant. Marc, par rapport à ça, on va se propulser tout de suite à la mise sur pied, dans le fond. C'est beau embaucher, c'est cool, mais à un moment donné, l'histoire Cendrillon, elle doit s'arrêter. Je veux dire, à un moment donné, on peut être indulgent, là, mais il y a des personnes qui sont juste pas infites. Moi, récemment, ça m'est arrivé de mettre quelqu'un à la porte. Par contre, toi, tu l'as fait pas mal. Comment on se rend là? C'est quoi ton processus?
Ben, tu sais, il y a un concept qui est super important. T'sais, ça s'appelle l'escalade des sanctions. C'est que tu ne peux pas mettre quelqu'un à la porte à la première offense. Il doit avoir quelque chose, il doit avoir un background. Puis, tu sais, on peut le faire super facile. Tu sais, on prend ta situation. Tu as un commis d'entrepôt, par exemple, puis il ne met pas les boîtes à la bonne place. Puis, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, tu sais, mais tu ne peux pas le congédier tout de suite à ce moment-là. Et honnêtement, qu'est-ce que tu as à y gagner? Tu sais, tu dois t'arrêter avec lui, tu dois lui expliquer, ben, ce soit super important que mon rangement est bien fait, ça a une valeur pour, bon, mon efficacité d'entreprise, mes revenus et tout derrière. Et tu sais, si cette personne-là ne comprend pas, ben, tu dois admettre une suspension, un avertissement écrit, ensuite tu dois aller plus loin vers éventuellement, tu sais, un congédiement, mais il ne faut pas avoir peur, je pense, de congédier les personnes qui ne sont pas un bon fit dans ton entreprise et ton organisation. Et tu sais, Belief Supplement, ben tu sais, vous êtes deux ou trois là-dedans, mais à la fin de la journée, ça fait pas de sens que Julien travaille avec quelqu'un qui ne voit pas un fit organisationnel. Mais la grosse question pour moi, c'est comment tu le fais. Et tu sais, le premier point qui me vient, c'est on a tout plus besoin d'amis que d'ennemis, right? Donc, comment tu vas faire ta mise à pied va avoir un super de gros impact sur ta culture d'entreprise et les gens. Et c'est souvent plus dur à faire, tu sais, je pense que tu seras d'accord, c'est plus dur à faire souvent pour la personne qui met à pied que la personne qui le reçoit, non?
Absolument, et, ouais, c'est stressant, man.
C'est stressant.
C'est spécial, ouais.
C'est spécial, puis je pense que l'important pour ça en tant que manager à haut niveau ou en tant que propriétaire d'entreprise, c'est de dire... Je prends une décision, je suis convaincu que c'est la meilleure pour mon entreprise et ensuite, ça devient comme une rupture. Tu sais, tu vas attaquer tout de suite le pépin en commençant, tu vas arracher le plaster, mais nous avons pris la décision de ne pas continuer avec toi pour telle et telle raison. Mais le plus gros mot que moi, je dirais, c'est faites-le bien. Faites-le bien. Tu sais, si tu peux donner...
Ouais, puis... excuse-moi de te couper, je suis super vraiment d'accord avec toi, man, parce que souvent, quand tu mets quelqu'un à pied, tu te rends pas nécessairement juste service à toi, tu lui rends aussi service à elle, comment, cette personne-là, dans le sens où c'est pas un fit, c'est pas un fit pour personne, là, pas plus pour toi que pour elle. Puis, moi, justement, il y a quelqu'un qui a fini par quitter d'elle-même, là, justement, parce que c'était pas un fit, puis mes paramètres faisaient en sorte que il y avait un manque de performance flagrant. Qui me dérangeait énormément. Puis, mes paramètres étaient clairs, elle n'était pas capable de les respecter, faute de performance, faute de connaissances, tout simplement. Fait qu'elle n'aurait jamais pu rester dans cette position-là, la personne, parce qu'elle n'aurait jamais pu s'épanouir là-dedans. C'était trop tough, trop stressant. Puis, j'étais vraiment indulgent parce que c'est un poste où je me dois d'être indulgent. J'ai pas le choix. À un moment donné, tu sais, la business, c'est ça. Là. C'est pas, tu sais, c'est le fun, on en parle sur le podcast, c'est cool, on parle de plein de concepts, mais à un moment donné, c'est get to it, puis il faut que ça se passe, là, on s'entend. Puis c'est ça, si c'est pas un fit, c'est pas un fit pour cette personne-là aussi, donc tu lui rends service. Tu sais, souvent, on a l'impression que, ah, mon Dieu, je te coupe un salaire ou si et ça, mais dans le grand scheme of things, tu lui rends service.
Tu lui rends service et c'est pas de ta faute à toi. C'est pas de ta faute à toi que ça fonctionne pas pour elle, que ça marche pas. Et tu sais, tu lui enlèves pas la possibilité à l'infini d'avoir un salaire puis d'avoir une vie. Tu sais, elle va pouvoir se trouver. Donc,
je vais te faire les bonnes références, j'en ai rien à foutre, mais c'est juste que t'es pas un fit.
Ouais. Et tu sais, excepté la situation de pandémie, machin, c'est un taux de chômage ultra bas, il y aura d'autres. Il y aura d'autres opportunités. Puis, tu sais, le plus gros point pour moi, c'est que qu'est-ce qu'il faut faire justement attention, c'est pas te mettre quelqu'un à dos. Parce que c'est tous des domaines où c'est des industries qui sont tissées serrées et tout le monde se connaît. Mais si tu mets quelqu'un à la porte, tu le fais pas bien, pas pour les bonnes raisons, elle va parler à des clients Elle va parler à d'autres personnes qui éventuellement travailleront pour toi. Elle va parler à des fournisseurs sans nécessairement vouloir le faire, mais ça va quand même arriver. Et tu sais, tu dois faire super attention de comment tu y vas. Et tu sais jamais comment cette personne-là, tu sais, si cette personne-là que tu parlais, ben, elle va peut-être aller vers d'autres choses. Puis peut-être que dans 6 mois, un an et demi, elle sera dans un état d'esprit, elle aura appris des trucs, elle pourra revenir avec toi, puis ce sera fonctionnel. Donc, pourquoi tu te fermes une opportunité en fermant pas un dossier super bien?
Je suis d'accord. Puis, tu sais, c'est important, justement, ben, tu sais, de toute façon, moi, il y avait déjà eu des avertissements au préavis. Mais, comme tu dis, c'est important de mettre ça au clair. Puis, en même temps, ben, c'est une offre de service qui va dans deux sens. Puis, faut pas être. C'est égoïste de penser, dans le fond, que c'est une mauvaise chose, parce que, dans le fond, c'est une bonne chose pour cette personne-là aussi. Là. C'est Marc, je pense que ça fait comme. J'ai regardé mon téléphone. Je pense que ça fait pas loin d'une heure et demie.
Ah oui!
Ça, c'est comme 2 fois plus long que mon plus long podcast ever. Toi puis moi, on a des histoires à l'infini. On pourrait en faire 10 en ligne des podcasts. On va finir celui-là sur une chose, puis on en fera d'autres éventuellement. Puis on continuera de jaser après pour s'en préparer un autre déjà ensemble. Mais j'aimerais ça qu'on parle de micromanagement et de peur de déléguer, parce que je veux dire, en restauration, c'est un monde où il y a tellement de management à faire que si tu es un micromanager, t'es mort. T'as pas le choix de déléguer. T'as juste pas le choix. C'est ça la beauté de la restauration. Fait que je trouve que au niveau du management, ça t'apprend des super belles choses.
Ouais.
Qu'est-ce que tu penses de la peur de déléguer, puis à quel point tu penses que c'est important d'être capable de déléguer?
Je pense que déléguer, c'est le plus gros fléau des entrepreneurs, des managers de nos jours, c'est la difficulté de déléguer. Et tu sais, il y a un proverbe que moi j'aime beaucoup, que j'ai marqué sur tous les murs où j'ai travaillé, sans aucune exception. C'est un proverbe africain, ça dit « Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ». Et j'y crois tellement, on va aller plus loin. Puis c'est vrai qu'à court terme, jusqu'à un certain point, quand tu es tout seul dans ton truc, tu peux aller plus vite. C'est vrai, j'y crois. Mais tu sais, si tu veux accomplir de grandes choses, aller très loin, et tu sais, tu vas te créer un...
C'est bon, c'est bon, man.
Puis, tu sais, moi, j'ai un peu un feeling, je fais beaucoup l'analogie entre le sport et la business, parce qu'anyway, tout le sport, c'est de la business anyway. Et qu'est-ce que l'équipe professionnelle fonctionne? Tu sais, si on prend le hockey, par exemple, ben t'as la Coupe Stanley, t'as un but commun pour tout le monde que tout le monde veut accomplir, mais c'est pour ça que tout le monde va travailler, tu sais, dans ce sens-là, puis dans l'objectif pour la drive, puis tu sais, moi, en resto, j'ai toujours essayé d'emmener ça, c'est, on peut-tu faire un record de vente, on peut-tu faire un record de couvert, qu'est-ce qu'on peut être fier, tout le monde, ensemble, d'accomplir, et t'as pas le choix de déléguer pour faire ça, tu peux pas être toi-même dans ton truc puis espérer t'en sortir, tu sais, tu vas virer fou en 1 an, en 2 ans. Et pourquoi le monde a peur de déléguer? Puis tu sais, tu me diras si tu es d'accord. Moi, il y a 3 points un petit peu qui sont majeurs. Tu sais, le premier point, c'est ça va être fait plus vite. Puis honnêtement, je suis tellement d'accord, parce que peu importe quelle tâche, la première fois que tu la délègues, si c'est une tâche d'1 heure, 1 heure et demie, peu importe le temps, ça va peut-être te prendre 2 heures et demie à l'expliquer pour que la personne puisse le faire. Puis tu as l'impression qu'à court terme, c'est une perte de temps. Mais non, parce que toutes les semaines de ta vie, tu vas sauver ce temps-là. Fait que c'est ça, pour moi, c'est la première raison pourquoi le monde a peur de déléguer. La deuxième, puis on en parlait tantôt, c'est juste de l'ego. Je veux être le super-héros, je veux être la personne qui est reconnue dans son travail. Mais le gros problème là-dedans, c'est que pour pouvoir devenir le héros, l'humain va avoir tendance à créer un petit peu ses propres problèmes. Donc, tu vas créer des feux pour toi-même les éteindre à l'intérieur de ta business, pendant qu'un bon manager, pour le dire tantôt, va tirer profit de tous les succès. De tous les succès, peu importe si c'est toi qui l'as fait ou si c'est ton collègue ou si c'est la personne à qui tu as délégué, Believe Supplement signe un gros contrat demain matin, que Julien Aron était dessus ou pas, tu vas tirer ton truc, tu vas tirer ta patente.
Puis
le troisième point, c'est qu'on a l'impression que ça va être mieux fait si on le fait nous-mêmes. Non, ça va être mieux fait, je vais le faire moi-même. Mais tu sais, pourquoi on passe tout notre temps à essayer d'être meilleur pendant qu'on devrait passer notre temps à essayer d'avoir les meilleures personnes avec nous? Puis, dis-moi, j'ai...
Exact, man.
J'ai un petit peu l'exemple, tu sais, je pensais au football avec Bill Belichick, avec les Patriots. Mais tu sais, qui gagne 5, 6 Super Bowls en 20 ans, je ne sais pas trop. Mais quand Tom Brady était sur sa drive à l'offensive, Belichick n'est pas dans ses écouteurs à lui dire à quel receveur il lance. Non, non, occupe-toi de ça. Ça, c'est ta partie. C'est pour toi. Fais plus de points que l'autre équipe, puis moi, je vais gérer mon truc. Puis tu sais, il va sortir au temple de la renommée, puis il va sortir comme un des plus grands coachs de football de tous les temps. Et il a délégué tout son cahier offensif au grand contrat à Tom Brady.
Puis, écoute, t'as tellement eu des bons points, man, puis je pourrais pas être plus d'accord avec tout ce que t'as dit. Puis j'en parle de micromanagement, puis j'en parle de peur de déléguer. Pourquoi? Parce que pour moi, ça a été une peur, une croyance limitative qui a été en moi si longtemps. Puis c'est normal. Puis c'est la même chose pour notre bon chum qu'on a, toi puis moi, commun, qui est un autre ami d'enfance, DP. DP, c'est un perfectionniste, on ne se le cachera pas. On le connaît très bien, toi puis moi. Puis il commence à prendre goût à déléguer, tu comprends? Il commence à comprendre la puissance de déléguer, à quel point c'est puissant, parce que la personne à qui tu délègues, elle a plus d'espace dans son esprit pour penser à la tâche qu'elle doit faire. C'est ça la différence avec quelqu'un avec qui je délègue. Puis, sais-tu quoi? Believe Supplements est maintenant rendu environ, pour moi, 15% de mon temps maximum dans une semaine. Mm-hmm. Puis Believe Supplements n'a jamais aussi bien fait qu'en ce moment.
Ouais.
Puis je suis là 15% de ma semaine, pas 100%, 15%. Le reste est dans Believe Lab. Puis je me dis, OK, là, mon prochain objectif, c'est de faire la même chose, mais avec le lab.
Avec le lab. Le lab
devient 15% de mon temps. J'ai appris à quel point déléguer, c'est puissant. Oui, ça prend du temps à former quelqu'un, mais à quel point c'est puissant de bien former quelqu'un. Puis si jamais vous avez peur de perdre votre temps, je vous conseille d'automatiser vos formations, dans le sens qu'il y a plein de formations qui peuvent se faire en vidéo, en screen record sur votre ordi, des choses que vous pouvez garder. Donc, si jamais vous perdez cette personne-là, vous pouvez quand même réutiliser cette formation-là pour quelqu'un d'autre. C'est tellement puissant.
Et tu sais, à quel point tu vas responsabiliser tes gens? Tu vas leur donner le goût d'être là, d'être avec toi parce que tu leur fais confiance, parce que tu les fais se sentir partie intégrante de l'équipe et du résultat. Tu n'as pas le choix. Tu dois déléguer. Puis, tu sais, il y a des trucs, je pense, que tu ne dois pas déléguer. Tu sais, on parle d'évaluation annuelle, on parle de peut-être discipline, s'il y a eu des
manques. Bien sûr, oui.
Et là, es-tu plus vite à avoir tes 10, 12, 14 piliers d'humain? Moi, j'utilise souvent la phrase « aligner, contrôler, valider » où tu parles au quotidien et tu fais propulser, justement, ou tu es plus vite à faire les trucs toi-même, tout seul. Pour moi, c'est un choix qui est facile. J'aime mieux me construire une armée. Puis, tu sais, il faut faire attention à l'expression, mais tu sais, dans une armée générale qui est là juste pour déléguer, il ne va pas au combat, il est dans ses trucs, il fait ses affaires, puis c'est pour ça que c'est fonctionnel. Mais je vois souvent cet exemple-là, un petit peu de coach pour moi, de propriétaire ou de manager versus un joueur qui est sur le terrain.
Ah, tu sais, c'est comme l'autre fois, tu me disais au téléphone de coacher les sidelines puis d'essayer d'arrêter de coacher sur la outline.
Ouais.
C'est exactement ça la métaphore pour ceux qui connaissent le football. C'est que si tu n'es pas capable de déléguer, c'est comme si tu essayais d'être le coach puis en même temps, tu jouais sur la outline en même temps. Ouais. Tu as quelqu'un direct devant toi puis en même temps, tu essaies de coacher tout le monde autour de toi. Comme c'est impossible, tu n'as pas de vision sur ce qui se passe sur le field. Il faut que tu sois sur le sideline. Tu n'as pas le choix. Puis c'est toi qui me l'as dit. Puis quand tu me dis ça, je suis comme, wow, OK, il va falloir que je l'utilise, cette métaphore-là. Puis je suis comme, je vais attendre d'être avec toi sur le podcast parce que ça tienne. Mais tu sais, ultimement, c'est tellement vrai. Tu sais, qu'est-ce que tu m'as dit? Puis s'il y a une chose que je serais pas prêt de déléguer, ce serait ma position de leader avec le staff, dans le sens que je veux prendre tous les meetings possibles avec tous les staffs possibles. Pour vrai, même si j'aurais 100 employés, j'aimerais ça que ce soit ça ma job à temps plein. De m'asseoir dans mon bureau puis de booker des 5 minutes avec tous les employés au monde pour parler que ça.
Exactement. Puis tu sais, moi, c'est quelque chose que je fais beaucoup en restauration avec des nombres de personnes élevées, mais 5 minutes par semaine au chat. peu importe t'es qui, tout le monde, 5 minutes par semaine au chat, on parle, comment va la vie, ça se passe quoi? Mais s'il n'y a rien à jaser niveau business, guess what? Comment vont les enfants? Comment va ta vie? C'est quoi tes projets? C'est quoi ton prochain voyage? Mais tu dois construire une équipe, tu dois construire une organisation qui tient. Et c'est un beau truc à se demander en tant qu'entrepreneur ou manager, c'est qu'est-ce qui marche si moi je ne suis pas là? Qu'est-ce qui fonctionne quand moi je ne suis pas présent dans l'organisation et je ne suis pas là? Et ça devrait être de construire ça au quotidien qui est pour moi clairement le plus important.
Marc, écoute, man, j'avais encore des sujets, mais il va falloir qu'on tire notre révérence sur cet épisode-là. Puis, sais-tu quoi? Je veux qu'on se garde du jus pour un autre épisode. Je vais avoir des feedbacks là-dessus. Guys, s'il vous plaît, écrivez-moi. Dites-moi comment vous avez trouvé l'épisode entre moi et Marc. C'est vraiment important. C'est un épisode vraiment sentimental pour moi. Marc, c'est le frère que j'ai jamais eu quand j'étais petit. Je suis sûr que c'est la même chose de ton côté. Puis, on est comme les deux doigts de la main, là. Fait que, sérieux, ça a été tout un moment pour moi, puis j'espère que ça a été un beau moment pour vous, auditeurs, auditrices, s'il vous plaît. On va arrêter ça là, puis on va en refaire un ensemble. Moi, je dis qu'on met ça sur pause. On met pas ça sur stop, on met ça sur pause.
On le reprendra.
On se dit à la prochaine. Puis s'il vous plaît, prenez un moment, allez, si vous écoutez sur Balado, s'il vous plaît, prenez 42 secondes de votre temps, laissez un 5-star review, un commentaire écrit, c'est vraiment important, c'est mon type. Tu sais, je fais ça gratuitement, puis je vais continuer de le faire gratuitement, le podcast, je m'amuse là-dedans, mais s'il vous plaît, faites-le. Spotify, on s'abonne. Et si vous écoutez sur, excusez-moi, si vous aimez ça, partagez sur Instagram. Si vous êtes le genre de personne qui est actif sur Instagram, s'il vous plaît, partagez en story, partagez dans vos groupes étudiants. Si vous êtes étudiant sur Facebook, je sais que vous avez des groupes privés. Guys, je vous aime. On se dit à la prochaine. Puis, c'était tout un moment qu'on a vécu aujourd'hui avec Marc. Puis, je pense que je vais faire plus de ces épisodes-là avec des chums qui ont plein de choses à dire, qui sont un peu moins connus. Marc, c'est pas quelqu'un nécessairement qui a une présence sur les médias sociaux, tout de même, c'est quelqu'un qui a une grande connaissance au niveau de l'entrepreneuriat. Marc, je sais que tu en as inspiré beaucoup au niveau de l'entrepreneuriat. C'est quelque chose dont je parle pas assez sur le podcast. Tu sais, on parle beaucoup d'entrepreneuriat, on parle d'être là, on parle d'être number one, mais c'est pas fait pour tout le monde. Puis DP, je vais l'avoir bientôt sur le podcast, puis on va en parler à quel point être intrapreneur à quelque part, ça peut être payant. Tu sais, au niveau personnel, puis au niveau financier aussi. J'espère que tu en as inspiré plusieurs. Tu sais, je veux dire, le restaurant à table là, chez lequel tu travailles en ce moment, où on n'a pas parlé, là, qui est un des plus grands restaurants au Québec, là, dans toute la province du Québec. Tu es intrapreneur là-bas, on va s'entendre. Là. Tu fais le plus gros salaire que tu as jamais fait, puis tu n'as jamais été aussi bien. Mais tu n'es pas numéro un dans ce restaurant-là. Là. Tu es sûrement numéro 13, admettons, mais Chris, t'es heureux, man. C'est ça qui compte, là.
Absolument. Puis, tu sais, le côté d'entrepreneuriat et le côté un peu moins sexy, je pense, de tout ça. Mais les deux doivent aller ensemble. Puis, je pense que chaque humain fit dans une case ou dans l'autre. Et tu dois choisir laquelle case tu te sens le plus à l'aise pour pouvoir performer.
Exact. Puis, je vais en parler encore et encore et encore sur le podcast, guys. C'est pas parce que vous écoutez mon podcast que vous allez devenir entrepreneur, puis je vous le dis, puis j'espère qu'à travers mes histoires, vous le savez que c'est pas fait pour tout le monde, puis j'espère que Marc va ouvrir les yeux à certaines personnes comme quoi l'entrepreneuriat, ça peut être aussi hot que l'entrepreneuriat. Marc, je t'aime, mon frère, merci pour le moment, on va se reprendre là-dessus. Puis guys, on se dit à la prochaine.
Salut mon vieux, c'était super le fun. From different